Bienvenue dans le quatrième épisode d'Inspiration Créative. Je suis Kylian Talin.
Je suis Valentin Descaires.
Et pendant une saison de 10 épisodes, nous partons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent.
Vous connaissez la musique, auteur, réalisateur, youtubeur, metteur en scène, humoriste et bien plus. Peu importe leur discipline, notre objectif est simple, comprendre leur processus créatif, leurs inspirations, leur mode de fonctionnement, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Aujourd'hui, on reçoit François Descraques. François est l'un des réalisateurs pour qui nous avons le plus d'estime. Il touche à tout, auteur, producteur, scénariste, ses talents sont très variés.
Toujours derrière la caméra, et parfois devant, il a été à l'origine de très très beaux succès. J'ai personnellement adoré les saisons du Visiteur du Futur, qui sont devenues pour moi des incontournables et qui ont démocratisé un genre nouveau sur Internet. Il a écrit son livre, Troisième Droite, à partir de tweets qu'il a écrit ces dernières années, et il s'apprête à sortir un film sur grand écran qui va sortir très prochainement.
On a discuté de comment muscler sa créativité, de la meilleure manière de tester son concept, de la réussite et de comment se différencier. Pour ce quatrième épisode, on aimerait dire un grand merci à Foodchéri. Foodchéri, c'est un service de livraison pour votre pause déjeuner. Ils font des recettes qui sont à la fois inspirées et créatives. Et le petit truc qu'ils ont en plus, c'est qu'ils concoctent tout ça avec des produits qui sont bio, de saison et surtout des produits locaux.
La carte change tous les jours, et si vous êtes végétarien, la moitié de leur carte est vegan. Ils livrent un peu partout en France, à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes et Toulouse. Et les plats sont disponibles à partir de 6,90€. Pour nos auditeurs, ils proposent un petit code promo de 10€, qui est disponible sur votre première commande à partir de 15€ d'achat. Il vous suffit de rentrer Inspiration Créative sur foodchéri.com. Profitez-en. On espère que ça va vous plaire, passez une bonne écoute. Bienvenue François.
Bienvenue.
Merci à moi.
Bienvenue
chez vous.
Voilà, merci.
Vous avez des super locaux pour un podcast, hein, franchement.
Tant mieux, c'est les débuts, mais on est content en tout cas de t'accueillir ici avec nous. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez significatif dans tes débuts, c'est que tu as eu la chance de pouvoir créer très tôt, ou tu t'es mis en tout cas la possibilité de créer très tôt. Et donc peut-être quand tu es arrivé à entre 15 et 20 ans, tu avais déjà peut-être une dizaine d'années derrière toi de travail.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter ces débuts,
oui.
Comment tu faisais pour t'initier à la création, à la caméra et à tout ce que tu avais?
C'était des jeux d'enfant, c'était ma façon de m'amuser quand dès que j'ai eu 8 ans, j'avais pas de caméscope, mais j'avais un pote qui avait un caméscope, donc je commençais à écrire des histoires pour qu'on soit filmé. Après, c'était son père qui nous filmait, qui devait être blasé de devoir filmer des enfants en train de faire des parodies de Jurassic Park. Et après, au bout d'un moment, j'ai eu la chance d'avoir une caméra qui était en fait un caméscope VHS, qui servait pour filmer les éléments familiaux et que j'ai volé pour faire mes propres petits films. Soit avec des potes, soit avec mon frère Raph, qui était mon cobaye à disposition à la maison.
Il était volontaire ?
Il était très volontaire. Il était très content de jouer avec nous. Même si je lui demandais des choses, des fois, genre, ouais, saute par la fenêtre, allez, voilà, action. Et il faisait tout ce que je lui demandais. Et c'est ça, à la base, c'était une façon de s'amuser le week-end. C'est-à-dire qu'on faisait un film le samedi, et le but, c'était que le soir, on rentre à la maison et on regarde le film qui était même pas monté, qui était tourné monté. C'était ça notre occupation, quoi.
Et tu le montrais à tes parents ? C'était une fierté pour toi d'acheter quelque chose
ou... Au début, ils le voyaient de loin et ça les amusait. Mais c'est après qu'ils ont commencé à s'y intéresser quand il y a commencé à y avoir du monde. Quand ils ont vu que j'y passais beaucoup, beaucoup de temps. En fait, je me rappelle le moment où, vers le lycée, ils m'ont dit « Bon, ben, est-ce que tu veux passer le code ?» Tu sais, ça coûte un peu cher. Et j'ai fait « Ben, est-ce qu'avec l'argent du code, je peux avoir ?» À l'époque, c'était une carte d'acquisition vidéo parce que tous les ordinateurs ne pouvaient pas avoir des fichiers vidéo, il fallait une carte d'acquisition vidéo. Et donc, ils m'ont dit, c'est soit l'un, soit l'autre. Et je préfère avoir une carte d'acquisition vidéo plutôt que passer mon code.
T'as permis aujourd'hui ?
Toujours pas.
D'accord. Donc, par contre, t'as des vidéos derrière
j'ai
toi.
Des vidéos, voilà. À l'époque, c'était genre évident. Je fais, non, je préfère faire des vidéos. Et là, ils ont commencé à se dire, bon, il est sérieux là-dedans, en fait. Et quand j'ai commencé à faire des montages avec des musiques, avec de la mise en scène un peu, même si c'était très amateur, ils ont commencé à regarder et à suivre, quoi. Et ça, c'est un truc que je pense souvent, c'est que j'ai fait une formation de scénario avec le grand scénariste, gourou de scénario Vogel, que Alessandro Aschi avait ramené à Paris. Et Vogel, il disait, l'important, c'est de faire des trucs cool. Et faire des trucs cool, c'est faire des trucs que vos parents ne vont pas comprendre. Et malheureusement, mes parents aiment bien ce que je fais, ils suivent ce que je fais, ils adorent. Du coup, je sais pas si mes parents sont méga cool, si moi j'arrive pas à faire des trucs cool. Mais du coup, oui, j'ai toujours eu le soutien de mes parents. Ils regardaient ça et ils adorent. Même si des fois, je me dis, mais ça, ils vont pas comprendre. Ou alors, ils vont trouver ça choquant. Et non, non, ils suivent tout, quoi.
Et avec Raphaël, ton frère, tu penses que vous êtes stimulés un peu l'un l'autre pour créer?
Totalement. En fait, c'est marrant parce que jusqu'à mes 18 ans, je vivais à la maison et il était mon cobaye. Lui, il avait donc il y a toujours 6 ans de moins. Et après, moi, j'ai vécu à Paris. Et donc, son adolescence, il l'a fait dans son coin, dans le sud de la France. Et du coup, quand je suis revenu... C'est là où il s'est développé un peu tout seul. C'est-à-dire que c'est là où vraiment j'ai commencé à le suivre indépendamment de ce qu'on faisait ensemble. Et j'ai vu qu'il faisait des films aussi, j'ai vu qu'il faisait du théâtre. Et en fait, ça a été pour ça que dans nos premières vidéos sur Internet, comme le Visiteur du Futur, je ne l'ai pas choisi parce que c'était mon frère, j'ai choisi parce que je l'ai vu au théâtre. En fait, j'ai fait, mais en fait, genre, comme si il ne me tenait pas trop au courant, il faisait des trucs dans son coin, et j'ai fait, mais en fait, t'es bon. Il fait, ah bon, moi, je sais pas. Et donc, je l'ai vraiment choisi par rapport à ce que j'avais vu de lui au théâtre, pas juste parce que c'était mon frère, quoi. Et je pense que Raph, même si on collabore souvent et on discute beaucoup, on s'est toujours dit qu'on était plus fort séparément, on va dire. On avait deux fois plus d'idées séparément. Et des fois, on se les confronte mutuellement, quoi. Et puis surtout, j'ai pu voir avec les années comment sa sensibilité était différente de la mienne. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas interchangeable, quoi.
À quel moment la vidéo, la réalisation, c'est devenu, enfin, t'es devenu sérieux avec ça? Et à quel moment c'est devenu un peu un objectif pour toi?
Dès que j'avais 10 ans, quoi. Vraiment, j'ai jamais eu d'autres alternatives, quoi.
Mais t'avais pas ce truc-là de tes profs qui te disaient, mais c'est pas un vrai métier, si. Où tu vas galérer?
Et tu t'en foutais? Oui. En fait.
Non, mais c'est fort de te le dire parce que quand t'es jeune, t'es hyper influençable et t'es hyper.
En fait, au début, quand t'es vraiment petit, quand t'as 12 ans, on te dit rien, on te dit juste, ah oui, tu seras Spielberg plus tard, on te donne des phrases comme ça.
C'est marrant.
Après, ce qui a été intéressant, c'était que quand j'ai fait j'ai fait un bac S, et quand j'ai dû formuler mes vœux pour mes études supérieures, j'ai dit que la formation qui me correspondait le plus, c'était un BTS audiovisuel. Dans le milieu de l'audiovisuel, un BTS audiovisuel, c'est quand même cool, surtout un BTS audiovisuel public, c'est-à-dire qu'il y a une sélection et tout. Mais dans la tête des profs de S, où tout le monde va soit en ingé, soit en médecine, quand je dis que moi, je vais faire un BTS, qui pour eux, c'est un truc pour être technicien, ils disaient, mais pourquoi tu te rabaisses autant alors que tu as des bonnes notes, quoi? Et que, du coup, j'ai pas eu d'obstacle, mais c'est vrai qu'ils étaient surpris, quoi. Ils me disent, mais quel est l'intérêt, quoi? Et je devais leur expliquer, bah non, par rapport à ce que je veux faire, stratégiquement, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est là où j'aurai le plus de formation sur un court terme. Parce que moi, je voulais pas faire des bonnes études, j'ai fait un peu de fac et j'ai détesté ça. Et du coup, oui, j'ai dû un peu, déjà à ce moment-là, face au prof, j'ai pas dû me batailler, parce que je fais ce que je voulais, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que je voyais dans leurs yeux en mode, mais tu vas être technicien, c'est bizarre. Et je leur disais, bah non, parce que. Pour être réalisateur, c'est ce que j'ai toujours voulu être, il faut passer par l'étape des techniciens. C'est comme ça que je le voyais, quoi.
Et, ok, très clair. Enfin, c'est bien que tu aies eu cette lucidité très jeune et que tu aies su dès le départ où tu voulais aller. Et est-ce que dès le départ, tu avais un peu ce sentiment que tu allais t'en sortir quoi qu'il arrive? Ou tu t'es dit, je vais galérer un peu, mais tant pis
Je savais que j'allais galérer et mes parents m'ont dit. Ils m'ont dit, tu sais, nous, on n'a pas de connexion dans ce milieu, on peut juste te soutenir, etc. Déjà financièrement au début, et ça c'est un truc que les gens disent peu, c'est que c'est les premières années, tu peux pas forcément être autonome tout de suite, il faut travailler, il faut avoir des petits jobs, mais qui vont pas forcément te payer ton loyer, surtout à Paris. Donc voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, il faut négocier, et moi j'ai toujours considéré mes parents au début comme des producteurs en fait aussi, c'est-à-dire que je savais qu'ils me donnaient les moyens de vivre à Paris, moi je devais leur fournir des preuves que je savais ce que je faisais, que je faisais des projets, donc c'est pour ça que je leur ai toujours montré ce que je faisais aussi. C'était pas tant pour qu'ils soient fiers de moi, mais pour qu'ils soient rassurés. Je dis voilà, j'ai fait ça, j'ai eu tel rendez-vous et tout. Et même si au final, j'avais pas grand-chose en termes de vrai succès, on va dire, c'était très vague, mais ils étaient contents que j'étais au courant, ils savaient que j'étais sérieux, quoi. Donc du coup, et au fur et à mesure, ils ont pu un peu, j'aurais pu leur dire, écoutez, vous avez moins besoin de m'aider maintenant, c'est bon, merci. Voilà quoi, mais je l'ai vraiment fait ça parce que je considérais qu'ils étaient des producteurs pour moi, quoi. C'était mes premiers producteurs.
Et est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être, je sais pas, une anecdote ou un moment, un projet que t'as fait où tu t'es dit, là je suis en train de passer le cap
entre mes parents producteurs et moi qui arrive à devenir autosuffisant. Hein,
ça n'a jamais été d'un coup, en fait. En fait, je me rappelle que de la première fiche de paye en tant qu'auteur, parce que j'ai, même si, en fait, comment dire, dans mon métier, c'est deux métiers. C'est-à-dire que je suis réalisateur et scénariste. Et en fait, c'est deux métiers différents et c'est même deux façons d'être payé différentes. Du coup, mes premières façons dont j'étais payé, c'était en tant qu'auteur. Aussi, c'est parce qu'il y avait moins de charges sociales. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple pour les boîtes et tout. Donc, du coup, d'avoir ma première fiche, on avait marqué François Descraques auteur, mais j'étais trop content. Même si c'était 200 balles, quoi. J'étais trop content. Et même si c'était pas forcément pour un vrai boulot d'auteur, c'était pour de la commande de texte, pour des pubs, pour des, ou même pas des pubs. Enfin, bref, des trucs très chelous que j'ai fait au début. Et du coup, j'étais content d'être considéré comme auteur, de dire je suis auteur. Regardez, 200 balles les mecs. Ça, j'étais vraiment très content. Mais c'est sûr que j'ai jamais touché de jackpot où je me suis dit waouh, ma vie va changer. Ça a toujours été par étapes et j'ai surtout été très économe. Ça a été ça, peut-être comme ça j'ai réussi à survivre aussi, c'est que je dépensais rien. Du coup, pendant des années, j'avais toujours des économies. Et j'ai toujours jamais été bien payé sur un très gros projet. J'ai toujours été payé normalement sur plein de projets. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, au fur et à mesure, me dire « Ah, mais en fait, je suis indépendant, en fait. » Mais ça n'a jamais été du jour au lendemain, quoi. Ça a vraiment été au fur et à mesure, à force d'économiser 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Et à la fin, j'ai fait « Ah, mais en fait, c'est bon, en fait, je vis bien, en fait. » Mais ça a mis du temps.
Et combien de temps ça a mis entre peut-être ton BTS et ça, et ce moment ?
En fait...
Quelles ont été un peu les étapes ?
En fait, pour moi, le moment où peut-être j'ai commencé à être... à ce qu'on vient de me chercher, c'était à partir du moment où j'ai fait le Visiteur Futur. Donc, c'était peut-être 5 ans après mon BTS. C'est là où avant, j'avais des petits jobs dans l'audiovisuel. Et là, on me disait, « Ah, on a vu ce que tu as fait, on a besoin de toi pour tel projet. » Donc là, c'était vraiment, c'est là où on a commencé à venir me chercher pour faire plus ou moins ce que je savais déjà faire, à savoir de la réal, de la comédie et tout. Et là, c'était 4 ans, 5 ans après mon BTS.
Comment t'as fait pour expérimenter un peu et trouver les formats ou les thèmes qui te plaisaient dans la création ? Je crois que t'avais monté un blog qui s'appelait French Nerd.
Alors, oui, en fait, le blog, en fait, par étapes, si tu veux. Donc, j'ai eu plusieurs phases, voilà, comme Picasso, exactement comme lui. Pendant le lycée, je faisais des gros courts-métrages trop longs qui me prenaient trop de temps. Et c'était des trucs de 40 minutes. C'était avec Florent Dorin, c'était avec mon frère, c'était avec d'autres gens de mon lycée. Et c'était des séries, parce qu'en fait, les épisodes se suivaient, et c'était sur Internet, donc c'était des web-séries, même s'il n'y avait aucune plateforme vraiment dédiée à ça. Pendant le BTS, c'est là où je me suis dit, il faut que je... C'est trop long, c'est trop compliqué, c'est pas très bien. Je me rappelle parce que je l'avais envoyé à un vrai réalisateur de cinéma, qui s'appelle Éric Valette, qui est un réalisateur de films fantastiques français, entre autres, qui a fait un film qui s'appelle Maléfique à l'époque, qui a fait d'autres films et tout. Et je me rappelle, j'avais réussi à avoir son adresse mail, et je lui ai dit, écoute, on se connaît pas, je suis un petit jeune, voici un film que j'ai fait. Et le mec, il a dû se taper un film d'adolescent de 40 minutes et il m'a répondu gentiment. Il m'a dit, écoute, t'as du talent, c'est cool. Bon, c'est pas bien. Et il faut que tu fasses des trucs plus courts parce que les acteurs jouent moyennement, etc. Enfin, et ça m'a vraiment aidé, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a pas dit arrête, il m'a dit essaie de te concentrer sur les trucs que tu dois apprendre, que tu dois maîtriser avant de faire des formats plus longs, tu vois. Et c'était un des meilleurs conseils que j'ai eu. Du coup, pendant mon BTS, j'ai commencé à réfléchir à des formats plus courts et c'est là où j'ai commencé à faire des... C'était quand même des courts-métrages, mais pas des sketchs, c'était entre les deux. Et j'en ai fait plein comme ça. Mais pareil, ça me prenait trop de temps encore. C'est-à-dire que vraiment, des fois, je mettais 6 mois à en faire un, tu vois. Et au bout de quelques années après, avec Slimane Baptiste Beroun notamment, je lui ai dit, écoute, je pense que ce qu'on fait, c'est trop ambitieux. Il faut faire plus court, plus simple pour apprendre. Et parce que, en plus, sur Internet, je lui ai dit, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit... on fait des gros courts-métrages de cinéma qui vont être diffusés dans des festivals où il y aura 30 personnes, dont que des équipes qui viennent voir leur propre film. Soit on essaie de faire des trucs plus réguliers, mais moins ambitieux visuellement, à destination d'un public sur Internet. Et à cette époque-là, je te parle de 2007, YouTube n'existait pas vraiment encore. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de vidéos sur YouTube. YouTube, ça servait que à faire des vidéos de chat, quoi. Du coup, on était en train de se dire, bon, on a qu'à mettre sur Dailymotion, parce que Dailymotion, c'était une plateforme où il y avait des humains qui étaient payés pour voir les vidéos et les mettre en avant ou pas, quoi. Du coup, on a commencé à se dire, faisons plutôt ça, Mais par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas faire une vidéo par an, il faut en faire une par semaine. Et c'est là où French Nerd, donc mon blog, a été créé. C'était un prétexte pour se dire, ok, chaque semaine, il y aura une vidéo originale. Et je ne sais pas si ce sera encore. Et on a commencé à fournir du contenu comme ça et tout, sans trop se juger, en disant, ok, c'est pas parfait, mais ça va nous permettre de progresser. Et surtout en se disant que parmi ces idées qu'on va expérimenter, ces vidéos, peut-être une sera mieux que l'autre et on ne saura pas pourquoi. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé et c'est là où le Visiteur Futur est né en fait. Il est né de ce côté, genre, merde, on a une vidéo à fournir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et par contre, dans cette période-là, ce qui était intéressant, et c'est là où je vais revenir sur ta question de comment j'ai trouvé un peu mes références, mon style, c'est qu'au début, je testais des choses un peu pour essayer de percer. C'est-à-dire que vraiment, c'était ça mon premier réflexe, c'était de me dire qu'est-ce qui marche sur Internet ? Ah, j'ai qu'à faire de la parodie politique, alors que je m'en fous de la politique. J'ai qu'à faire voilà, des trucs comme ça. Et en fait, le Visiteur Futur, c'est la première fois où je me suis dit, je vais faire un truc qui me plaît, et je sais pas si ça va plaire aux autres. Ce sera de la science-fiction et de l'humour, c'est deux trucs que j'aime beaucoup. Et j'ai pas cherché à plaire, j'ai pas cherché à essayer de surfer sur un truc qui marchait déjà. Et ça a été le truc qui a le plus marché, quoi. Du coup, il a fallu que je passe par des étapes de pas d'imitation, mais voilà, j'ai fait des détournements. Sauf que c'est dur de faire les détournements à l'époque où Mosinor faisait les meilleurs détournements sur Internet. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, ok, ça sert à rien de se battre contre ça, il est trop fort. Et le Visiteur Futur, je me suis dit, bah, ce qui est bien avec le Visiteur Futur, c'est que on peut dire que c'est la meilleure série de science-fiction sur Internet en France, de voyage dans le temps, parce qu'il n'y en a pas d'autre. du coup, je me sentais plus à l'aise et c'est là où on va dire mes références, mon style, j'ai pu un peu plus les développer, quoi.
Il y a plein de choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir.
Désolé,
j'ai un truc.
Vas-y.
Je rebondis. J'en ai 3-4 aussi.
Pardon, j'ai fait 5 ans de ma vie en 2 secondes. Là, c'était
compliqué. Mais c'est top. T'as un truc que je trouve très fort, c'est que tu dis à partir du moment où j'ai créé pour moi,
ouais,
c'est devenu. Tu t'es dit, ça, peut-être que ça allait parler aux autres, mais en tout cas, c'est là où je me faisais le plus plaisir.
Et c'est ça que les gens ont vu, en fait, je pense. C'est qu'ils n'ont pas vu quelqu'un qui essayait de plaire ou d'imiter ou de surfer sur des trucs. Ils ont vu. Alors, je dis pas que ça marche. Justement, c'est pas parce que tu fais un truc qui te plaît que ça va marcher, mais si ça marche pour les bonnes raisons en tout cas. Et puis, c'est. De toute façon, il vaut mieux le faire plutôt que surtout qu'à partir du moment où t'es pas payé pour ça, c'est-à-dire que autant se faire plaisir, quoi. Tu vas passer du temps là-dessus, autant que ce soit un truc qui te plaise vraiment, qui te parle. Et donc, voilà,
c'est une ligne directrice qui est restée après, de créer pour te faire plaisir. Et...
Ouais, alors après, ça a été, comment dire, oui et non. Enfin. Ça reste toujours, c'est sûr, mais après il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte sur la faisabilité, les productions, convaincre d'autres gens que ton idée peut marcher aussi. C'est sûr que.
Mais ta démarche personnelle, c'est toujours toi.
Oui,
parce qu'il y a des créateurs qui nous disent moi je crée pour un public.
Je pense que tu le prends forcément en compte, non ?
Mon public, c'est mes potes, ma famille, c'est les gens, c'est ceux que je visualise un peu. Après, oui, je peux comprendre ça, c'est que je vois, comme j'ai eu l'occasion après de rencontrer entre guillemets mon public, je peux plus visualiser les gens qui suivent, etc. Et du coup, forcément, ça m'influence. Je peux pas dire que non, j'estime qu'ils n'existent pas et tout. Après,
On a eu les deux cas, je trouve, les gens qu'on a déjà eu avant. Il y en a ceux qui disent vraiment, ça part vraiment de moi et c'est ce que je veux faire et ça touche des gens parce que il y a des gens comme moi.
Oui,
c'est ça. On a eu Alexis Michalik qui nous disait, moi c'est toujours pour le public que je crée des choses, quoi. Mais les deux se.
Mais en même temps, je pense pas que tu peux créer pour le public et pas mettre un peu de toi dedans, quoi. C'est pas possible.
Bien sûr.
C'est sûr que je sais pas. Et surtout que moi, je pense à moi en tant que public, ça, pas en tant que créateur qui se fait kiffer. J'essaye. Alors, des fois, je me fais kiffer, peut-être, je ne m'en rends pas compte, mais là-dessus, c'est pas une question pour moi. Enfin, des fois, on me le demande, des fois, on me dit, ouais, mais ce public va comprendre ça et tout. Et moi, je suis en train de me dire, ben, je pense, et voilà. C'est sûr que surtout sur les projets, ça dépend des projets, on va dire. Je pense forcément je pense pas forcément au public pour lui plaire, mais je pense à comment le public va le ressentir et va le vivre, et c'est ça qui me permet de savoir si je fais un truc qui est intéressant ou pas. Mais donc du coup, je m'imagine toujours comment un public va tomber sur ce que je fais et le vivre et tout, etc. Et troisième droite était pensée pour que le public tombe sur un tweet par hasard, trouve ça marrant, remonte le fil, se rend compte qu'il y a une histoire derrière, déroule le fil et après enchaîne les tweets. Donc du coup, j'ai pensé au public. Je me suis pas dit, non, démerde-toi, je voulais pas que ce soit fermé. J'essaie toujours que ce soit le plus ouvert. Et mais la différence, c'est que je me dis pas, il faut que le public... je vais pas mettre un truc que j'aime pas parce que le public aime ça, par exemple. Je vais pas me forcer à mettre une référence que j'aime pas, mais je me dis, bon, le public, il aime ça. Bon, c'est comme ça, quoi.
Et quand on regarde Troisième Droite, je réexplique rapidement ce que c'est. C'est basé sur l'univers de Twitter, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des threads et des discussions et différents enchaînements de conversations. Troisième Droite, quand tu l'as pensé, c'est une œuvre qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu l'as pensé comme ça, avec une certaine originalité, ou tu t'es dit, voilà, je trouve que le concept est génial, je me lance et on va voir comment les gens réagissent?
Oui, c'est ça. En fait, il y avait zéro risque. Ça, c'était juste du temps que je prenais sur moi et des tweets que je mettais sur un compte que j'avais créé. Donc, du coup, c'était ça aussi la pulsion. En fait, déjà, tout démarre d'une pulsion avec moi. C'est-à-dire que j'ai une envie créative. Ça veut pas forcément dire que tout doit venir de moi. C'est-à-dire que des fois, ça vient en réaction à d'autres choses. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, je peux être inspiré par quelque chose et rebondir sur un projet. Deadland, c'est une série télé qui, à la base, n'était pas de moi. Je me suis greffé. Donc du coup, ça vient d'une pulsion. Et après, le but, c'est de dire, quelle est la meilleure forme possible et pour que ce soit le plus... Après, Troisième Droite fait partie des projets que j'ai fait pour que je ne devienne pas fou. Pour que quelque chose que je fasse sorte spontanément, contrairement à d'autres projets où ça met des années à ne pas se faire, etc. Du coup, ça, tout a été créé pour que ce soit le plus spontané possible. Donc, qu'est-ce qui était le plus spontané? C'était Twitter, parce que c'est littéralement dans mon téléphone et tout. C'était une sorte de roman où j'avais pas besoin de produire beaucoup de choses, même si au final, il y a eu des vidéos, des photos dans Troisième Droite. C'était cette simplicité qui m'a excité. Me dire, mais en fait, c'est bon, je peux le faire. Et je me rappelle, je l'ai fait quand j'étais en vacances. C'est-à-dire que j'étais en vacances et je le faisais en attendant dans les restos, en écrivant sur mon téléphone. Je me suis dit, putain, je suis en train de créer un truc qui est exactement ce qui va sortir. Alors que quand t'écris un scénario, t'écris des trucs qui vont être après budgétisés, qui vont après être tournés, qui vont après être montés, qui vont après être étalonnés. Là, ce que j'écrivais, c'était le produit final. Donc du coup, c'était ça qui était excitant, en fait. C'était cette rapidité, en fait.
Et tu dis quelque chose de très intéressant, je trouve, sur un peu cette frustration parfois qui peut s'accumuler quand tu travailles sur un projet sur le long terme.
Ouais.
J'imagine que ça doit être le cas quand tu réalises des choses.
Ouais.
Toi, tu as besoin de voir un projet qui avance et qui a des preuves qui commencent à retomber de la part des gens qui le suivent.
C'est pas tant que j'ai besoin de retour ou de félicitations, etc. J'ai besoin de me dire que ça avance et que ça sort. Tu vois. Alors après... et notamment dans le milieu du cinéma, ça se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe pas spontanément. Et ça demande à faire des projets avec un autre type de mentalité. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir un pied dans chaque type de milieu où, en fonction de chaque projet, il y a une énergie différente et un rythme différent. C'est sûr que les projets qui rendent le plus fou, c'est les projets qui prennent le plus de temps où tu te dis. Et des fois même, t'as peur de te dire, mais putain, entre temps, j'ai tellement évolué que mon scénar, il est pas aussi bien ou c'est pertinent. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que ça prenne du temps, c'est extrêmement frustrant, mais qu'au final, les gens disent, bah oui, ça aurait été bien en 2008, tu vois. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait. Du coup, j'ai besoin d'avoir des projets à côté, beaucoup plus spontanés, et qui permet de nourrir cette pulsion que j'ai de manière saine. Voilà, plutôt que de tuer des gens, j'en sais rien.
C'est ça, son truc. Voilà. Juste pour revenir sur ce que tu disais avant, je pense que la majorité des gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui ont envie de créer des choses, mais qui sont un peu au début et qui sont dans cette phase où y a rien qui marche vraiment, mais qu'ils ont envie d'aller vers ce truc qui marche.
Bah alors déjà, c'est très relatif. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas?
Bien sûr.
Non mais ça, c'est une vraie question, et ça, c'est une question
qui est du succès.
C'est pas ça, c'est que ça a évolué entre nous quand on a commencé le Vistar Futur, quand on était en home page de Dailymotion et qu'on a réussi à avoir, je me rappelle, 50 000 vues, mais c'était champagne.
Ouais, c'était énorme.
C'était genre, putain, on a fait un buzz.
Ouais.
Voilà, je parle en termes de vieux. Maintenant, le problème qu'ont ceux qui démarrent sur YouTube, c'est que les chiffres qui permettent de dire que ton truc est un succès, c'est des millions de vues. C'est hyper compliqué à avoir, et surtout, où maintenant, pour les avoir, il faut reproduire des mécanismes
lié à un algorithme et tout. Enfin, jamais le Vista Future aurait pu marcher maintenant, si je l'avais lancé maintenant. Quoi. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que le succès est relatif, ce qu'on considère comme un succès à tenter n'est pas forcément voilà, quoi, à un autre moment. Et c'est pour ça que le média, enfin le médium sur lequel tu vas expérimenter est hyper important. Là, j'ai pu le tester par exemple avec le podcast, où je vois mes chiffres sur mon podcast à moi qui s'appelle Mystère à Saint-Jacques, et je me dis, tiens, ils sont pas énormes, et pourtant ça suffit. Enfin, comme il n'y en a pas encore trop pour l'instant, et là je dis ça, peut-être dans 6 mois il y en aura trop. Du coup, voilà, il faut se mettre dans un terrain de jeu où tu te sens pas forcément perdant dès le départ, j'imagine. Parce que ça doit être très dur pour ceux qui commencent de se dire, ok, il faut que je fasse les mêmes chiffres que Squeezie. Quoi.
C'est clair que les standards augmentent tout le temps. Quoi. Ouais,
ça peut inhiber un peu, je pense.
Bah ouais, clair, ouais, complètement.
Et ma question, c'était, dans cette phase de 4 à 5 ans que tu décrivais avant, qu'est-ce que tu ressentais? C'était quoi ton moteur? Tu l'as dit un peu, c'était cette envie de percer, entre guillemets?
C'est sûr que je voulais, entre guillemets, moi et mon équipe, qu'on soit se reconnaître d'une manière ou d'une autre, tu vois. Même si le truc, c'est qu'il y avait tout à créer. En fait, c'est ça qui était peut-être excitant et effrayant, c'était qu'on n'avait pas de vrai modèle.
Ouais.
On ne pouvait pas se dire, oh, on a qu'à faire comme machin. Le seul modèle que j'avais, c'était la chaîne No Life, qui était une chaîne télé qui n'existe plus malheureusement, dans laquelle il y avait des gens comme M. Poulpe, Davy Mourier, comme la Flanders Company, comme Noob. Ils n'étaient pas nombreux et ils faisaient des séries geek sur une chaîne télé. C'était des sortes de web-séries, mais pour la télé. Et c'était mes seuls référents. Je me suis dit, tiens, je veux faire globalement comme eux, quoi. Mais il n'y avait pas d'énormes trucs où je me dis, oh putain, il faut que je fasse ça, c'est impossible, quoi. Du coup, c'est ça qui m'a aussi aidé, c'était d'être dans une sorte de terrain vierge où il y avait tout à créer. Ça a été assez bénéfique. Le fait de ne pas se dire... putain, je vois des chiffres par rapport à d'autres, du coup c'est de la merde et tout, etc. Tu vois, il y avait peu de comparaison à ce moment-là. Et je te dis, les seuls qui faisaient des trucs à l'époque de Dailymotion, c'était Rémi Gaillard et Mosinor. Mais comme je voulais pas du tout faire comme eux, je me sentais pas en comparaison.
Tu n'avais pas de référentiel.
Ouais. Pour moi, j'avais pas trop de référentiel. Du coup, je me dis, ok, je vais plus ou moins créer mon propre référentiel et on verra si ça se greffe. Et la chance que j'ai eue, c'était que le milieu des vidéos sur Internet et de la fiction sur Internet, parce que c'est deux trucs différents, les vidéos sur Internet et les fictions, a commencé à se développer. Et c'est là où, en parallèle de nous, on s'est développé dans notre coin, des plateformes comme Studio 4, donc France Télévisions et tout, ont commencé à se développer et à rechercher du contenu qu'on faisait nous. Mais ces plateformes-là n'existaient pas. On a vraiment lancé un pavé dans la mare en disant « on verra ce qui en ressort ». On a vraiment misé sur rien, quoi. Mm. Et il s'est trouvé que les choses sont... Le temps que nous, on apprenne, on évolue, on se plante un peu, on trouve nos marques, eh ben, les médias à côté, les producteurs ont commencé aussi en parallèle de nous, à chercher du contenu, et ça s'est croisé au bout d'un moment, quoi.
Et c'est à la fois une part de chance et une part de... Vous avez fait ce qu'il fallait pendant 15 ans pour que le jour où ce marché explose...
Il y a une demande à ce moment-là.
Vous étiez là et vous étiez ceux qui savaient faire ça.
Exactement, c'est ça. Et ça a été un vrai avantage parce que le fait d'avoir fait 2 saisons du Vista Future en autoproduction, quand on nous a demandé, quand Ankama est venu produire la saison 3 avec France Télévisions Nouvelles Écritures, ils nous ont pas dit comment on va faire cette 3e saison. Ils ont dit faites ce que vous savez déjà faire, en fait. Donc on a pu s'appuyer sur déjà deux saisons, on a augmenté en expérience, mais. La chance qu'on a eue, c'est qu'on ne nous a pas dit comment faire notre propre série. Parce qu'on l'avait testé pendant 2 ans, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que tous ceux qui commencent d'une manière ou d'une autre, sans argent, c'est la meilleure façon de tester son propre concept. Et plus tu fais ça, plus quand tu te retrouves face à des financiers, tu peux dire je sais exactement comment le faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire aussi. Donc, c'est pour ça que cette partie de, entre guillemets, moi je ne vois pas ça comme de la galère, je vois ça comme de la recherche et développement, l'expérimentation, tu vois. Et tout le monde passe par là, tu vois. C'est que je pense que l'erreur aussi des gens, c'est de se dire si je suis pas payé, ça n'a pas de valeur, tu vois.
Ou si ce que je fais, c'est pas bon du premier coup, j'arrête. Parce que je suis pas fait pour ça.
Exactement. Enfin, et il faut que ce soit pas bon du premier coup. C'est le pire truc qui puisse t'arriver, c'est que tu fasses un truc bon du premier coup sans savoir pourquoi. Et que tu sois incapable de le reproduire après. il vaut vraiment mieux, et ça j'en ai fait un tweet récemment, il vaut vraiment mieux, mais j'étais très fatigué, du coup mon tweet est pas très bien dit, mais il vaut mieux passer par beaucoup d'échecs et apprendre et savoir ce qu'il faut pas faire, plutôt que d'avoir un succès hasardeux. Et après, de plus savoir comment rebondir.
Finalement, si tu veux répéter le succès, il faut que tu aies compris un minimum dans ton passé. Ce qui a fait que aujourd'hui, c'est l'expérience de le répéter parce que tu as.
Et surtout, je pense pas qu'on puisse répéter des succès techniquement. Ouais. Je pense que tu peux t'appuyer sur des succès, c'est sûr, tu vois. Mais les répéter tels quels, justement, ça marche rarement en fait. Ouais. Il faut toujours trouver le truc différent qui va faire que c'est pas la même chose. Et du coup, ça demande de passer par des étapes d'échec, etc. Mais c'est tellement. Et surtout aussi, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus facile de réparer quelque chose qui est cassé plutôt que d'inventer un truc parfait de nulle part, quoi. Donc il vaut mieux avoir, et ça je parle notamment dans l'écriture, c'est l'écriture, c'est, tu fais que ça, tu n'écris pas un scénario, tu fais que réparer des ou d'essayer de comment dire, d'améliorer quelque chose de moyen, juste ça, en rendre un truc potable, mais pour ça il faut produire quelque chose de moyen et il faut avoir le courage de se dire c'est pas top, mais ça sera une base et on va construire autour de ça, quoi. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait, c'est de se dire, ok, c'est pas top, mais j'ai besoin de visualiser ces éléments-là pour après les améliorer et me séparer des idées ou pas et tout.
Quand tu dis c'est ça qui est le plus dur, ça m'intéresse de savoir un peu parce que je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et toi, quand tu es en période de création, ce qui doit être pas tout le temps, mais une grosse partie de ton temps quand même.
C'est la plupart du temps, ouais.
Est-ce que tu as des moments de doute ou des moments qui sont durs où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, mais je... C'est une galère, quoi.
Oui, complètement. Enfin, mais ça dépend, en fait. C'est plus dur quand, on va dire, les moments de doute viennent de facteurs qui te dépassent, qui n'ont rien à voir avec la création, qui sont des trucs très concrets, très chiants, des trucs juridiques, etc. Ça, c'est le plus dur à vivre quand tu te dis, ok,
ça n'a pas de sens.
J'ai eu des projets qui ont été bloqués pendant des années à cause de problèmes juridiques et il n'y a vraiment pas de sens, tu vois. Quand c'est des problèmes de création, c'est très relou. Mais.
Ça t'arrive,
mais ça m'arrive tout le temps, sauf que j'ai appris à les gérer, quoi, et à pas paniquer. Et à
qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu prends un peu de recul, tu mets dans un coin et puis tu y reviens plus tard, tu te bats comme un acharné, qu'est-ce que tu fais?
Alors souvent ce que je fais quand je bloque, en fait c'est simple, je fais autre chose et en fait ça vient, c'est-à-dire que quand ton cerveau est dans une sorte de boucle où il répète la même réflexion qui ne marche pas, et que tu te rends compte au bout d'une heure qu'en fait tu n'as pas avancé, des fois le moindre truc que tu fais qui n'a rien à voir, même juste aller aux toilettes, ça permet de rebooter ton cerveau. Sortir, faire des courses, j'en sais rien, tu vois. Tout d'un coup, tu te rends compte que quand tu te dis je ne vais pas travailler, je refuse de travailler, et là, ton cerveau. Il se met au travail. En fait, parce que c'est ça le problème. T'es obligé de dompter ton cerveau, de l'arnaquer, pour lui dire non, c'est pas du boulot, on fait autre chose. Non, tu travailles pas là-dessus. Et là, tu dis merde, je m'emmerde. Et là, ton cerveau, il se met en mode créatif, il trouve des solutions qu'il n'aura pas trouvées. Parce que c'est plus du boulot.
C'est un peu un éternel rebelle.
Exactement, il faut un peu se piéger. C'est Aaron Sorkin, qui est le scénariste de, entre autres, Steve Jobs, Social Network, qui a dit que lui, il prend 6 douches par jour. Parce que le fait de prendre une douche, c'est comme démarrer une journée. Du coup, c'est comme si son cerveau rebootait, et chaque fois qu'il bloque, il prend une douche, et tout d'un coup, il se dit « Ah, où j'en étais ? Ah, mais ça, c'est... » Et là, il débloque les situations. Et en plus, il consomme de l'eau, mais en même temps, propre. Mais il y a des techniques comme ça, tu vois, il ne faut pas lutter comme ça et tout. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même avoir une rigueur d'écriture, il ne faut pas non plus fuir à l'infini et rien faire et tout, etc. Moi, ce que j'ai appris de comment je fonctionnais, voilà les étapes. Quand je commence un nouveau projet qui va être ambitieux, mon cerveau, il freeze. La première chose qu'il fait, c'est qu'il freeze, il se met en mode écran bleu. Et je deviens pratiquement narcoleptique. Et ça, j'ai appris à le reconnaître. Je me dis, tiens, je deviens hyper fatigué, alors j'ai beau me doper, genre je prends du café à fond, et ben ma tête s'écroule et je m'endors. J'ai appris à ne pas lutter. J'ai appris à me dire, c'est normal, il faut que je passe par cette étape-là. Je peux pas lutter. Du coup, je m'endors. Même s'il est 14h, je m'endors. Au bout de 2 heures, ou 1 heure, ou tout, mon cerveau se réveille et dit, bon, il faudrait quand même que tu te mettes à bosser. Et Et du coup, voilà, j'ai appris à ne pas lutter. Alors, ça m'arrive aussi avec des fois quand j'ai envie de faire autre chose, genre, je sais que je dois travailler sur un scénario, mais j'ai un jeu vidéo. Et le premier truc que je me dis, c'est non, d'abord j'écris, ma récompense à 18h ou à 19h, c'est de jouer au jeu. Ça marche jamais. Ça marche jamais parce qu'en fait, je pense qu'au jeu vidéo. Du coup, je me dis non, je prends ma pause maintenant. Donc, je joue au jeu, pareil, en plein milieu de la journée, alors que, tu vois. Et en fait, le fait de jouer à un jeu vidéo en plein milieu de la journée, au bout d'une heure, t'en as marre, tu babilises, tu te dis... Et là, tu te mets mieux au boulot. Plutôt que de se forcer comme ça, je me débarrasse de tout ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, je me retrouve à me dire, bon, bah, j'ai plus rien d'autre à faire que travailler. Bon, bah, j'y vais, quoi. Et donc, du coup, j'ai appris un peu à reconnaître ça, quoi. À me dire de me dire que ça serait une façon d'aller plus vite, au final, quoi. Plutôt que d'être bloqué, d'être entre deux eaux. Alors peut-être le pire truc, c'est les réseaux sociaux, hein, parce que c'est une bonne façon de rien faire, quoi, les réseaux sociaux. Si t'as l'impression que tu fais des trucs et en même temps tu fais rien, c'est terrible ça pour l'écriture, quoi.
Ce que tu dis, ça m'inspire une réflexion. Quand on s'imagine un peu les gens qui créent des choses, on se dit, ah, ils ont de l'inspiration, ou ils créent parce qu'ils ont des flashs d'inspiration et d'un coup il y a un truc qui leur vient et ils l'écrivent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt en étant régulier tous les jours.
Ouais.
Et même les jours où ce que tu écris, c'est pas très bon.
Bah, c'est ça. En fait,
c'est comme ça que tu trouves l'inspiration.
Alors, oui, déjà, c'est sûr que c'est un muscle qu'il faut travailler régulièrement, d'une manière ou d'une autre. Après, il y a deux types de créateurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin de créer pour vivre. Du coup, ils attendent que l'inspiration vienne, etc. Il y en a, ils se disent, merde, si je ne sors pas un truc, c'est la merde. Du coup, je suis obligé de créer, quoi. Ouais, donc, c'est pour ça que ça dépend des gens. Et je respecte les gens qui attendent le moment d'avoir une idée.
C'est une minorité, quand même.
Ça dépend, parce qu'il y en a, dans mon métier, à savoir réalisateur scénariste, il y en a qui des fois, ils peuvent enchaîner des commandes de réal où ils ne sont pas forcément scénaristes. Du coup, ils sont plus dans la mise en scène. Ils n'ont pas besoin d'attendre l'inspiration. En fait, les scénarios, ils les reçoivent et ils les interprètent et tout. Du coup, ça... J'ai des potes qui font ça, qui, entre deux projets où ils ont besoin d'être inspirés, ben, ils vont faire des commandes de réal, etc. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne, dans le sens où j'ai la chance de pouvoir travailler sur mes projets à moi et de refuser des commandes. Mais je peux comprendre que des fois, je pense, si j'en ai marre à un moment que les projets n'avancent pas, je serais content de faire une commande pure et de pas avoir à me dire, tiens, faut que je trouve une idée qui vient de nulle part, quoi. Donc les deux fonctionnent, quoi. Mais comme tu dis, oui, plus tu crées, plus tu crées. En fait, c'est ça. C'est l'avantage de la création, je pense, c'est que c'est pas comme footballeur ou danseuse étoile où genre à 25 ans t'as fini. Tu vois, en gros, t'as été au pic de ta carrière et tu n'as plus rien à apporter vraiment, et donc après tu peux juste c'est le déclin. Moi, je pense en tant qu'auteur. Plus tu vis, plus tu as des choses à raconter, tu vois. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est se dire que tu as toujours cette peur de se dire, ok, à quel moment j'aurai plus rien à raconter, mais en même temps, plus tu vis des expériences humaines, plus tu auras d'autres trucs à raconter. Après, peut-être ce qui va changer, c'est ben, ton public va peut-être être pas le même, etc. Quoi. Mais je pense qu'il faut. Moi, je vois ça comme ça, quoi.
Et attends, une petite question pour rebondir juste, et après, on peut peut-être changer de sujet, mais à quoi ça ressemble une journée de travail pour toi? Est-ce que tu l'organises? Est-ce que tu as des schémas qui se répètent?
En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout... Donc, par exemple, mon père, il est golfeur. Enfin, il est médecin, mais il joue beaucoup au golf. Et il me parle tout le temps de golf. Et...
C'est pas du tout cliché.
Et pas du tout. Et en gros, à chaque fois que je le vois, il me dit, j'ai une nouvelle méthode. Et je fais quoi?
Pour le golf?
Ouais. Et je fais, ok. Il dit, montre-moi ton swing, François. Je fais, ok. Je montre le swing qu'il m'a appris la dernière fois. Il fait, non, c'est plus comme ça maintenant, ça a changé. C'est plus les poignets. Maintenant, c'est les épaules. Je fais, ok. Je reviens deux semaines plus tard, il fait, fais-moi ton swing. Je fais, ok. Il fait, non, c'est plus les épaules maintenant, c'est les hanches. Et en fait, il a toujours. Et en fait, c'est une éternelle recherche. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il voit ça comme ça. C'est qu'il il se dit pas, j'ai trouvé la méthode et c'est fini. Il a toujours l'impression d'avoir trouvé la méthode et il change de méthode tout le temps. En tant qu'auteur, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je trouve une méthode, mais. Quand elle devient trop... Au bout d'un moment, bah, je m'en lasse, ou au bout d'un moment, bah, je commence à faire des mécanismes qui se répètent et à plus y arriver. Du coup, je change de méthode. Du coup, j'ai eu plein de phases. Il y a eu une époque, quand j'étais plus jeune, je travaillais que de nuit. Vraiment, j'avais un rythme de nuit. Alors, c'était parce que aussi, j'étais gardien de nuit. J'avais un vrai métier de job pour être gardien de nuit. Du coup, je dormais pas la nuit. Du coup, j'écrivais la nuit et c'était un rythme. Heureusement, je ne fais plus ça. Mais Maintenant, des fois, je me dis, ok, quelle est la meilleure heure pour écrire, c'est quoi? Et en fait, pendant longtemps, j'écrivais l'après-midi, puis je me suis rendu compte que l'après-midi, tout le monde m'appelait. Du coup, je me dis, mais non, vaut mieux j'écrive le matin. Et des fois, quand j'ai trop d'appels, parce qu'en fait, pareil, mon problème, c'est que je suis scénariste, mais je suis aussi réalisateur. Du coup, ce que je dois faire en tant que réalisateur, c'est des rendez-vous, etc. Donc, du coup, ça me coupe des moments d'écriture. Et quand je vois que mes journées sont pleines de rendez-vous, je me dis, bon, bah, je suis obligé d'écrire la nuit. Du coup, il n'y a pas de journée type, en fait. C'est-à-dire que si j'ai aucun rendez-vous pendant une semaine et que j'ai que de l'écriture, dans ce cas-là, ma journée type, c'est je me lève vers 8h30, je prends mon petit-déj tranquillou. Le matin, j'écris pas vraiment, mais je réponds à plein de mails, etc. Et en même temps, je réfléchis à ce que je vais écrire. Et l'écriture arrive vraiment l'après-midi, si je ne suis pas interrompu. Des fois, je panique à 16h en me disant que j'ai rien fait. Et après, tout vient à 16h30 pendant 3h. Et après, je me rends compte qu'il faut manger. Je me dis, mais merde. Et un truc que j'ai appris aussi, c'est que des fois, c'est une meilleure stratégie de s'arrêter en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un truc, plutôt que de vouloir terminer forcément. On a envie de terminer, mais en même temps, des fois, de ne pas terminer, c'est la meilleure façon de mieux commencer la journée le lendemain.
C'est ce que faisait Hemingway aussi, je crois.
Bah voilà, quoi. De se dire, ok, je sais par quoi commencer. Parce que le plus dur, c'est de s'y mettre. Le plus dur, c'est de se mettre à travailler. C'est ça, c'est une sorte de torture psychologique où tu culpabilises de dire, mais putain, j'ai ça à faire, putain, c'est bon, j'ai une chance de ouf d'être dans un cadre cool, d'être chez moi, etc. Alors, aussi, par contre, le cadre de travail est très important et c'est un truc qu'on néglige souvent au début en disant, je suis auteur, je suis capable d'écrire n'importe où. C'est bien de construire un cadre dans lequel on est à l'aise, et moi j'ai mis du temps avant de construire mon cadre, et il est tout le temps d'évolution. À un moment, j'étais dans un appart où j'étais pas très heureux de travailler dans l'appart, et du coup j'allais dans beaucoup de cafés, il fallait trouver le bon café où je sois pas emmerdé, où j'ai pas de courant d'air, où...
Et ce qui est dingue, c'est qu'un rien peut te dérégler.
Alors, rien, ouais. Et tu dis, c'est bon. C'est
pareil. Parce que ton cerveau qui te demande à ce que tu te dérègles, et donc là, il y a, ok.
Mais c'est.
Une opportunité de divaguer.
Mais complètement. Mais d'où l'enfer des réseaux sociaux. C'est George Martin qui, lui, il écrit sur un DOS, sur un ordinateur DOS. Donc, juste avec un écran noir et écrit en vert. Il n'a pas Internet.
Ouais.
Bon, tu me diras, il n'écrit pas pour autant. il nous donne toujours des bouquins. Mais je peux comprendre complètement sa réflexion de se dire, mon cadre de travail, c'est pas un endroit où je peux aller sur Internet. Je pense que c'est ça qui peut être le plus handicapant maintenant pour les nouvelles générations. On est tellement distrait par la technologie, et tout, etc. Et je dis pas qu'il faut forcément aller dans une ferme au milieu de nulle part, mais trouver un cadre dans lequel on est bien, c'est compliqué.
Et aujourd'hui, tu travailles où ?
Principalement chez moi. J'ai un bureau, en fait j'ai la chance de pouvoir d'alterner entre mon bureau et mon salon, et mon bureau, par malchance, mais par chance finalement, j'ai pas de wifi vraiment, donc du coup des fois, alors ce que je fais maintenant, pareil c'est une façon de me piéger, c'est que je mets mon portable à charger dans le salon, du coup mon portable n'est pas près de moi et je peux travailler dans le bureau, mais le problème c'est que dans mon bureau des fois, même quand t'écris, t'as besoin d'internet des fois pour les recherches, des fois pour
la définition,
du coup je me dis merde, donc je débranche mon ordi, je vais dans le salon, j'ai internet et mon portable et c'est fini. donc c'est clair. En fait j'aime bien changer de table, genre j'ai mon bureau, j'ai mon canapé, mais j'ai aussi là où je mange. Et le fait de changer un peu de table, de bureau et tout, à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas faire la même chose. Donc, pareil, d'essayer de toujours un peu se renouveler, de ne pas être bloqué. Il y en a qui, peut-être, ont le même bureau depuis 20 ans. Moi, non, quoi. Tous les ans, je change un peu de cadre, en fait.
C'est marrant parce qu'on pourrait imaginer que quand tu deviens plus avancé dans la création, tu arrives à t'échapper de ces contraintes du portable, etc.
Non,
et en fait, on est comme toi. Moi, j'ai la même chose quand je travaille, quand je réfléchis. J'essaie de mettre mon portable à l'autre bout de la pièce. Je le laisse dans la salle de bain pour pouvoir me concentrer. Quoi.
Mais c'est terrible, ça. Franchement, c'est terrible. Et c'est pas que les moments où j'ai le plus créé, c'est les moments où j'avais pas d'internet. C'est les moments où je suis à l'étranger, où j'ai pas le wifi, où je suis coincé et tout. Il y a aussi des moments où je crée. C'est de moins en moins, mais. Quand j'étais jeune et que j'allais à la messe et que je m'ennuyais, là je créais de ouf. Et là vraiment, pendant une heure, t'as ça à faire. T'es dans une salle, t'es comme ça, t'attends, voilà quoi.
On retiendra cette parole d'évangile pour tous les jeunes créateurs.
Allez à la messe. Il y a de la musique, il fait frais. voilà quoi. voilà, et vous avez que ça à faire. Et c'est aussi pour ça que j'étais aussi gardien de nuit. C'était un de mes premiers jobs, c'était parfait pour écrire parce que. Je n'avais rien d'autre à faire que d'écrire. Je n'avais pas encore à cette époque-là de portable internet. Et du coup, vraiment, des fois, ton boulot, c'était de passer 3 heures et 3 heures et 3 heures dans un endroit où il n'y avait rien. Et du coup, il fallait juste pas dormir. En fait, c'est même une expérience, je voyais ça comme une expérience sociologique. Quoi. Genre, comment un être humain ne doit pas dormir pendant 3 heures dans une salle à rien faire, quoi. Et en fait, ça, c'est là où j'ai le plus écrit, quoi. Parce que j'avais rien d'autre à faire, quoi. Et donc, d'essayer de retrouver ça, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de faire ça de façon un peu artificielle, de retrouver ces trucs-là.
De se recréer un cadre pour n'avoir rien d'autre à faire.
Parce qu'en fait, et ça, je vais sortir une phrase que j'ai lue quelque part, et je sais plus d'où, c'est qu'un artiste ne se met à travailler que quand la douleur de ne pas travailler est supérieure que la douleur de travailler. Du coup, il est obligé de passer par ces étapes-là, de se dire « Ah putain, faut vraiment que j'écrive, faut vraiment que je me mette à créer, sinon c'est de la merde. » ou alors, faut passer par l'étape de jeu, où t'as pas l'impression de travailler, où c'est du jeu et tout, où c'est juste du fun et tout. Et le problème, c'est quand ce fun devient après ton travail, et du coup, faut retrouver ce fun-là, enfin voilà, c'est bien un exercice mental, quoi, une sorte de... Voilà, il faut essayer de dompter son cerveau, quoi, c'est ça qui est le plus dur.
C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un bouquin que je recommande à tous ceux qui veulent créer des choses, c'est... La guerre de l'art de Steven Pressfield,
d'accord.
Qui parle de la résistance, donc c'est tous ces mécanismes de notre cerveau qui nous empêchent de créer. Et lui, ce qu'il dit, en fait, tu l'as dit sous une autre forme, c'est le plus dur quand tu veux écrire, c'est pas d'écrire à ton clavier, c'est de faire le trajet entre là où t'es et ta chaise pour aller écrire. Et tu l'as dit dans les mots qui sont les tiens, mais c'est marrant parce que moi je le ressens aussi et toi tu le ressens et c'est marrant quoi.
Non, mais c'est ça qui est. Et surtout, tu culpabilises beaucoup parce que tu te dis. C'est pas compliqué, j'ai pas un métier contraignant, et tout, etc. Enfin, du coup, tu t'en veux vraiment de pas y arriver, tu vois.
Surtout quand c'est ton métier, quand c'est, voilà, c'est ton quotidien.
Tu vois, donc moi, heureusement, ça va, j'arrive à y arriver au bout d'un moment, quoi. Genre, j'aime, et surtout que j'ai j'ai beaucoup de rigueur sur les délais. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tant que... Quand on me donne un délai, je le maintiens et j'ai souvent de l'avance. Mais c'est aussi pour m'en débarrasser. C'est aussi pour avoir l'esprit tranquille et pour passer à un autre truc, parce que j'ai toujours autre chose à côté. Donc du coup, il y a ce côté genre, putain, j'ai envie de terminer à ce moment-là. Allez, je me démerde pour terminer à ce moment-là. Après, c'est compliqué, c'est que dans l'écriture, ce qui est dur, c'est de quantifier le temps que ça va te prendre. C'est-à-dire que c'est toujours plus compliqué que plus long qu'on pense. Et c'est ça qui est peut-être le plus dur psychologiquement, c'est de se dire, tiens, j'ai bossé toute la journée, j'ai travaillé, et pourtant, j'ai fait que un quart de ce que j'étais censé, que je pensais devoir faire. Et de se dire, bon, bah, c'est pas grave, ça va s'accélérer plus tard. Et souvent, dans mes projets, ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que le début prend plus de temps que je pense, et la fin va beaucoup plus vite. Du coup, il y a ce moment, toujours au début, où je me dis, putain, ok, là, je me dis, ok, je vais avoir un mois de retard. Ok, c'est fini. Et vers la moitié, je me dis, ah, au fait, là, c'est bon, j'ai fourni des pages et tout. Et à la fin, je dis, oh putain, j'y suis arrivé. Voilà. Mais
c'est une deadline, t'aide aussi à tenir et avancer, quoi.
Ouais, alors il y en a qui s'en foutent des deadlines. Hein. Je connais des gens pour qui les deadlines, c'est genre, non, les deadlines, c'est fait pour pas être respecté, etc. Tu vois.
Ta constitution après de ta personnalité aussi, quoi.
Mais moi, en fait, ouais, moi, j'ai peut-être ce syndrome de bon élève de me dire, non, on m'a fait confiance, on m'a demandé ça pour telle date, je suis censé le faire pour telle date. Après, je suis aussi malin dans le sens où je vais pas accepter des délais qui sont irréalisables. Je préfère dire aux gens, non, vous pourrez l'avoir 2 mois plus tard, mais vous l'aurez. Plutôt que de dire, oui, pas de problème, en disant que c'est pas possible. Ça, je peux pas accepter ça.
Je trouve ça, personnellement, je suis assez impressionné par un truc chez toi, c'est que tu allais toucher dans des secteurs et des arts très différents.
Ouais.
T'es parti sur l'éditeur du futur, tu as été auteur en même temps, des BD, tu fais un podcast en ce moment, Troisième Droite. Il y a plein de choses. Est-ce que pour toi, c'est une envie que tu as d'aller expérimenter toujours des choses que tu connais pas, des nouvelles inconnues, on va dire.
En fait, c'est ça, c'est que bien sûr que le cinéma, entre guillemets, alors le cinéma c'est un mot très large pour qui recouvre tout ce qui est fiction, audiovisuel pour moi, ça a toujours été ma première passion et mon premier travail. Mais l'avantage qu'on a avec Internet, entre autres, et avec la BD, parce que c'est marrant parce que. Tous mes potes font de la BD maintenant. C'est-à-dire que c'est devenu un truc. Tous les gens qui sont passés par Internet maintenant ont eu leur BD.
Ouais. Tout c'est édité par David Mourier.
t'as entièrement raison. David Mourier que je vois demain pour parler d'une BD. Voilà, donc du coup.
Bonjour David.
Voilà, il faut que tu l'invites. S'il y a bien un mec qui est en termes de création qui est hyper intéressant, c'est David. Quoi. Et ce que je veux dire, c'est que tous ces médias ont des avantages et des inconvénients et permettent de créer des histoires différentes, tu vois. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, que j'aime bien, c'est de me dire, ok, quand je fais une fiction audio, j'adore de ne pas avoir à me prendre la tête sur la mise en scène visuelle. Tu vois, c'est ça qui est génial.
Et est-ce qu'il y a, il y a aussi un côté pour toi où c'est un nouveau domaine,
ouais,
donc je vais pouvoir faire un truc que je ne sais pas encore faire, ouais, et ajouter une corde à mon arc de compétences supplémentaires?
En fait, c'est oui et non, parce que, par exemple, pour Troisième Droite, j'ai toujours voulu écrire un roman, mais je me suis toujours considéré comme étant un mauvais auteur littéraire. Du coup, le fait de passer par Twitter et par un langage direct, c'était une façon pour moi de me mettre en confiance. Du coup, je voulais écrire un roman. Mon but, c'était de faire un roman. Je me dis, bon, faisons un truc sur Twitter, ce sera plus humble. Et au final, ça a été édité par Flammarion, donc c'est sorti comme étant un roman. Et moi, je suis content de cette arnaque. Je me dis, ah, j'ai fait croire que je faisais... c'est une double arnaque, c'est que j'ai l'impression d'avoir sorti un faux roman, et en même temps, je voulais faire un vrai roman. Donc, je me suis arnaqué moi-même pour ne pas avoir l'impression de faire un vrai roman, pour au final, ça sorte comme un vrai roman, alors que c'est écrit comme un langage Twitter.
Finalement, tu joues avec ta contrainte personnelle qui, ouais, était de te sentir peut-être comme un auteur pas abouti ou pas encore,
ouais,
prêt à être publié chez Flammarion.
Exactement.
Et finalement, en jouant avec cette contrainte.
Et ouais, en piégeant moi-même, en me disant, ok, je vais essayer de faire de pas culpabiliser ou d'avoir un mauvais style. Voilà. Et là, pareil pour le podcast audio que je fais, en fait, il s'appelle donc Mystère à Saint-Jatu. C'était pour moi une envie de faire. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours. C'est un rêve bizarre, mais j'ai toujours été jaloux des soaps. En disant, putain, ces mecs, ils font des séries pendant des années, ils font des intrigues.
Seinfeld, des compagnies.
Non, pas Seinfeld, non. Je pense à Plus belle la vie.
Ouais.
Je pense à ces trucs qui durent depuis 20 ans, où les mecs, ils fournissent ils génèrent des scénarios pratiquement aléatoires toutes les semaines. Et
tous les soirs, t'as un
rendez-vous.
T'as un mini, il lâche la musique,
les gens viennent le soir. Et tu te dis, putain, et les ficelles sont énormes, et le public est conscient de ça, mais il est addict parce qu'il y a une sorte de régularité. Je me suis dit, putain, je dis pas que j'aimerais faire ça tel quel, mais j'adore le fait qu'en plus ils écrivent les intrigues en fonction des comédiens, parce que moi j'ai des potes comédiens qui sont apparus dans des soaps, et j'ai un pote qui m'a dit une fois, dans un soap, il m'a dit, ah c'est bon, je suis libre, j'ai rien plus de temps, mon personnage il est mort, c'est bon. Et je le revois un peu plus tard, il me dit, bon, bah, je retourne dans la série. Je lui dis, mais t'es pas mort? Il fait, bah en fait non, c'était une mise en scène, en fait j'ai fait semblant d'être mort, voilà. Du coup, je fais OK.
Où il y a un flashback 30 ans en arrière.
Voilà, et c'est que ça. Et après, il me dit, ah, j'ai trouvé une méthode, c'est bon, j'ai des vacances parce que mon personnage part en moto. Je fais OK. Du coup, tous les scénarios sont négociés en fonction des dispos des comédiens. Et je trouve ça fascinant. Je me dis, putain, mais en fait, voilà, ils font, ouais, ce qu'ils veulent. Et du coup, Mystère à Saint-Jacques, c'est ça, c'est une sorte de soap que j'écris au fur et à mesure en fonction des dispos des comédiens. Je dis, j'ai qui ce jour-là, j'ai machin, machin, machin. Bah OK, bah, j'ai créé des personnages autour d'eux. Bah, lui, il a qu'à revenir. Et donc, du coup, c'est une façon un peu de créer un truc, mais sans avoir me contraindre par un vrai tournage, tu vois.
T'as l'air de t'amuser, quoi.
Mais c'est que du fun. Franchement, ce projet, c'est vraiment... Désolé pour la table.
Pas de soucis, c'est
que de l'amusement, et surtout que les comédiens qui viennent, ils viennent les mains dans les poches, ils n'ont rien à préparer. Donc, du coup, ils viennent prendre l'apéro chez moi pendant une heure, et après, on se dit, bon, bah, okay, vous allez découvrir l'intrigue, et on va jouer pendant une heure ensemble, quoi.
Alors, je ne sais plus le nom précisément que ça, mais quand Alexis Michalek est venu, justement, il me disait que lui, là, il crée des pièces à la table,
ouais,
à savoir qu'il écrit la pièce et après, il la donne aux comédiens, il la, ouais, joue, et il écrit des pièces
au plateau,
ouais, où il arrive avec une idée de, ouais, la, ouais, scène, ouais, mais rien d'écrit,
ouais,
et après, ça se crée sur, ouais, le moment, quoi. Et c'est un peu ce truc-là que tu...
En fait, Mystère à Saint-Jatu, c'est simple, c'est que moi, je leur donne la trame. En fait, ils ne savent pas qui ils vont... Enfin, des nouveaux qui viennent, des nouveaux comédiens, ils savent même pas qui est le personnage. Et je leur dis, au fait, tu vas jouer machin, tu rentres dans la pièce, machin arrive, vous discutez, action. Et ils créent des dialogues, en fait, tu vois. Et ils ont quand même un fil conducteur, dans le sens où régulièrement, je leur dis, et maintenant il se passe ça, et maintenant il se passe ça. Mais ils vont créer leur dialogue, et alors ils vont pas forcément faire un truc qui a. Des fois, ce qui est drôle, c'est que des fois, ils sortent de l'intrigue, et moi je le rappelle dans l'intrigue, c'est ça. Mais oui, c'est fait pour être collaboratif, quoi. C'est fait pour que. La plupart des blagues viennent d'eux, quoi, et pas de moi, quoi.
Et tu dois avoir quelque chose de super fort qui sort de l'improvisation.
Franchement, il y a des épisodes, mais c'est du génie. Et c'est du génie, je dis ça, pas parce que ça vient de moi, parce que ça vient d'eux. Moi, je leur donne un cadre pour s'amuser, et c'est eux qui spontanément sortent des trucs que j'aurais jamais pu écrire, quoi.
Est-ce que t'as l'impression aujourd'hui de progresser dans ce que tu fais?
Oui. c'est compliqué parce que je pense que j'espère que j'écris de mieux en mieux, j'espère que ce que je réalise de mieux en mieux. J'ai cette impression-là. Après, des fois, c'est marrant parce que là, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une projection de l'intégrale de la saison 1 du 800 Futures. Et j'avais pas revu depuis des années et tout. Et c'est fascinant parce que beaucoup de choses que je pensais qui étaient géniales, en fait, ne sont pas si bien. Et beaucoup de choses qui étaient tellement spontanées, tellement en mode, ok, on fait ça, on réfléchit pas trop. Je me dis, putain, ça, c'était super, on ne se rendait pas compte à quel point c'était. Comment retrouver ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça que chaque fois, je me dis, j'ai beau apprendre et, entre guillemets, maîtriser mieux mon art, etc. Les trucs que j'ai le mieux fait, c'était les trucs où j'ai pas trop réfléchi, en fait. Donc, du coup, j'essaye à chaque fois d'apprendre et d'oublier ce que j'ai appris, d'essayer de pas trop réfléchir, c'est d'être spontané, d'être instinctif. C'est ça que j'essaie de retrouver, ce qui est très compliqué quand tu fais des projets sur le long terme, où chaque élément de ton histoire doit être défendu, doit être machin, discuté auprès des producteurs, auprès de tout le monde, etc. C'est dur d'être instinctif à ce moment-là, quoi. Donc de garder un côté instinctif, un côté genre, allez, on sait pas d'où ça sort, mais on le fait quand même, c'est hyper important pour moi, parce que je sais que c'est là où je serai peut-être le meilleur, quoi.
Une fois que tu finis un projet, et que tu dis, ok, maintenant il est sorti, ouais, ma part du job est terminée, ouais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu prends des vacances, ou est-ce que tu as déjà un projet en tête, hein?
Ah, mais alors, en fait, c'est simple, c'est que ma vie, enfin c'est simple, non, c'est, ce qui est compliqué dans ma vie, c'est que, et dans mon métier en général, hein, c'est pas que moi, c'est que tout est en décalé. C'est-à-dire que je suis rarement en phase avec ce qui sort. Voilà, c'est que même le podcast que j'ai fait, par exemple, j'ai toujours des épisodes d'avance, tu vois. Donc du coup, il y a toujours un mois de décalage entre le moment où j'ai enregistré le truc et le moment où on diffuse l'épisode. Mais par rapport aux séries, c'est pire. Là, j'ai une série qui sort, qui s'appelle Dark Stories, où j'ai écrit et réalisé 2 épisodes. J'ai terminé les montages en janvier. Depuis, j'ai suivi la post-prod, etc. Mais dans ma tête, c'était terminé en janvier. Et ça sort en novembre. Moins d'un an après, mais ouais, on a tourné en novembre dernier. Tout ça sort un an après le tournage. Et on avait commencé à écrire un an avant. Donc, 2 ans. Tu vois, donc du coup...
C'est énorme, c'est très long.
Ouais. C'est très long. Tout ce que je... Donc, du coup... Des fois, les gens ils disent waouh, comment tu fais pour faire autant de choses en si peu de temps? Je dis ben non, ça a pris du temps en fait. Ça a mis certaines choses mettent plus de temps à sortir. À l'époque, quand j'étais troisième droite, c'était beaucoup plus rapide parce que ouais, il se passait très peu de temps entre le moment où j'ai l'idée et le moment où ça sortait. Et à côté de ça, t'as un court métrage qui s'appelle Minori que j'ai fait avec Cyprien. Et lui, il a été hyper rapide à faire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai tourné et. Le temps, j'ai tourné Minori et monté et c'est sorti avant que Dark Story sorte, que j'avais tourné avant en fait. Tu vois, donc du coup, tous mes projets, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas un ordre chronologique en fait. Du coup, un truc sort et je dois me projeter dans ma tête en me disant, ok, ça c'était il y a 2 ans, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 mois. Et du coup, quand j'ai sorti un projet, j'ai toujours un autre projet qui est soit à l'étape d'écriture, soit à l'étape de montage. Du coup, mon cerveau est toujours divisé en 15 étapes différentes en fonction littéralement des 15 projets que j'ai en parallèle, quoi.
Et ça t'arrive de dire non à des projets?
Oui. Ah ben, en fait, je dis beaucoup non à des projets vraiment que. En fait, je dis non à des projets où je me dis. Alors, des fois, je dis non à des projets vraiment où le scénar est vraiment nul, ça m'est arrivé. Des fois, il y a des projets où le scénar est vraiment bien, mais je me dis. Quelqu'un d'autre peut le faire. Vraiment, c'est un projet où que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense pas qu'il y aura vraiment une plus-value. Et là, je me dis, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, je vais pas apporter grand-chose. Donc, ça m'est arrivé de refuser des projets parce que je me sentais pas lié au projet tant que ça. Après, j'ai fait Minori, le court-métrage de Cyprien, c'est une commande de Cyprien. Mais je me sentais vraiment impliqué dans le projet. Il est venu me voir en disant, oh, mec, t'es allé au Japon. J'ai une idée d'une histoire au Japon, bon, c'était son idée, mais je me sentais impliqué dans le projet dès le départ parce qu'on a discuté du Japon ensemble et je savais que je pouvais apporter quelque chose. Et même si c'était une commande, je me dis non, ça je peux vraiment le faire, je peux apporter quelque chose que d'autres ne vont pas faire, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir réussi selon tes critères à toi qui sont très personnels?
Non, et c'est ça qui est chiant en fait, c'est que je devrais être serein et nous dire, enfin,
Satisfait.
Satisfait, parce qu'en plus, je vis bien, j'arrive à vivre sur Paris, qui est une ville chère, j'ai pas de soucis d'argent, j'ai des projets, ils sont tous excitants et frustrants, mais globalement excitants. Je devrais être satisfait, et je le suis pas, parce que quand j'étais petit, ce que je voulais faire, c'était du cinéma. Et entre-temps, j'ai fait tellement d'autres choses que je trouve excitant et cool. Et dans ma tête, je me dis, je serais satisfait que quand je ferai du cinéma. Et je sais que c'est faux.
J'allais te demander, est-ce que tu penses que tu seras vraiment satisfait le jour où tu auras fait un film?
Non, parce que j'aurais...
Tu cours toujours après un truc.
Exactement. Et je pense que moi, ma thérapie que je dois me faire avec moi-même, c'est de me satisfaire, d'être serein, d'être content, d'être content, pas forcément du résultat, mais du processus, quoi. C'est ça qui est chiant, c'est de se dire, je serai que content quand ce truc va sortir. Et j'ai fait suffisamment de choses pour savoir que c'est pas vraiment vrai, quoi. Donc, ouais, j'essaye, moi, de prendre du recul par rapport à ça, de me dire, putain, c'est quand même cool, tout ce que j'ai fait, etc., j'ai pas de regrets, même si je me réveille la nuit en me disant à chaque fois, putain, pourquoi ça avance pas, putain, quand est-ce qu'on tombe ce truc et tout, ça fait trop longtemps que je l'attends, etc. Et le pire, c'est que quand je tournais le Visiteur du Futur, les séries, qui étaient pourtant à ce moment-là des projets de rêve avec... tout était cool, où je maîtrisais un concept que j'avais créé avec mes potes, on me donnait des moyens de faire un truc que personne d'autre ne faisait. Et pourtant, j'étais malheureux à ce moment-là parce que je me disais, j'avais trop de... J'étais pas malheureux, mais j'étais très concentré. Et je me rappelle, chaque jour de tournage, je me levais, je me dis, François, rappelle-toi que tu vas passer une journée avec tes potes. Que très peu de gens peuvent se lever le matin et dire, tiens, j'ai passé la journée avec mes potes à faire des vidéos, à faire une série en costume et tout. Et je devais me forcer à y penser pour pas être dépressif pour rien, quoi. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est d'être négatif, quoi. Et moi, des fois, je suis trop négatif et je devrais l'être moins, quoi. Et j'essaie de m'entourer de gens positifs, voilà. C'est ça aussi que j'ai appris, c'est de m'entourer de gens qui étaient contents de parler. Par exemple, là, il y a un projet que je suis avec Yacine Bellous, et à la base, on s'est pas dit, on a un projet, on s'est dit, travaillons ensemble, on trouvera le projet après. Mm. Parce que pour moi, c'est tellement une source de positivité que j'avais besoin de ça. Je me dis, on trouvera l'idée. C'est pas que l'idée est pas importante, mais l'idée viendra de la positivité, de la création, de cette relation, quoi.
De l'envie de travailler ensemble.
De l'envie de travailler, quoi. Et je pense que c'est ça qui est le plus précieux. C'est pas tant les projets, alors ça paraît un peu con, mais c'est les gens, en fait. C'est-à-dire que les gens avec qui tu vas travailler, qui vont générer une énergie, ils vont te permettre de trouver des bonnes idées. Plutôt que de devoir s'accrocher à dire « Je suis censé trouver la bonne idée parce que je suis censé être un génie, machin, etc. » Et l'idée qui va être géniale, qui va devenir de moi, si c'est le cas, tant mieux. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est que les meilleures idées que j'ai eues, je les ai eues en collaboration ou en interaction, on va dire, avec quelqu'un ou avec quelque chose, quoi. Et du coup, j'essaye de favoriser ça, parce que c'est un métier très solitaire des fois. Des fois, je passe trop de temps tout seul et je me dis... Et Mystère à Sajatu est né de ça. Il est né du fait de me dire, je me rendais compte que je voyais pas assez de gens, que je sortais peu. Je me suis dit, il faut que je crée un projet où régulièrement je vois des gens que j'aime bien, qui m'amusent, qui me font rire, qui m'inspirent. Et donc, on a créé ce concept pour vraiment se côtoyer, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois des potes que je connais depuis très longtemps et que je suis content de revoir, comme des gens que je connaissais moins et que j'apprends à découvrir. Comme récemment, il y a eu un épisode avec John Rachid. Je connais John Rachid depuis longtemps, mais j'ai jamais bossé avec lui. Et là, de le voir au sommet de son art, c'était génial. Je me dis, ah putain, mais ok, là, j'ai l'impression d'avoir bossé avec lui, alors que techniquement, c'était que 2 heures de notre vie, tu vois. Et ça, c'est important pour moi, quoi. C'est important de ne pas trop m'isoler, de ne pas être trop dans mon coin, et tout, etc. Parce que c'est très tentant. Très tentant de s'isoler, parce que voilà, quand t'as pas besoin d'être dans un bureau à côtoyer d'autres gens. Moi, j'ai construit ma vie pour jamais être dans un bureau et avoir des collègues, à être à la machine à café, parce que c'est un peu mon angoisse. C'est les bureaux, c'est mon angoisse. J'en ai fait même une série avec Slim qui s'appelle Les Opérateurs, dans lequel on a mis en scène une boîte dans laquelle, voilà, quoi, tout est bizarre. Mais au fond, je sais que être tout seul dans son coin, c'est pas non plus plus sain, quoi. Et donc, trouver des façons de trouver des gens avec qui travailler, et tout, etc., c'est important.
Tu t'alimentes de ces rencontres aussi.
Toi ?
Tu t'alimentes aussi de ces rencontres.
Exactement. Et parce que je suis pas le génie que des fois je pense être, vraiment, quoi. J'ai besoin d'être inspiré par des choses, par des gens, etc., quoi.
Et sans être un génie, mais en prenant un peu de recul, peut-être en t'imaginant toi un peu plus tard, est-ce qu'il y a un truc où tu aimerais te dire bah, je suis content d'avoir apporté ça aux gens ou d'avoir laissé cette petite trace qui a aidé quelqu'un, des gens? Qu'est-ce qui serait important pour toi?
Déjà, je pense que je suis. Enfin, ce qu'on a fait avec le Visiteur du Futur, déjà, et aussi, moi, ce qui me rend heureux, c'est que autour du Visiteur du Futur, au même temps, il y a eu d'autres gens qui ont fait des choses. Et le fait de faire partie de cette génération-là, ça, c'est un truc qui me rend très fier. De me dire, OK, on a tous commencé. Tu vois, on a fait un podcast avec Flaubert, dans son Floodcast, où il avait réuni moi, Davy, John Rachid et Baptiste. Et tout ça, c'est des gens avec qui on a mis du temps à se retrouver. Mais on a commencé un peu au même moment, on avait les mêmes références. Et de dire, putain, on a galéré en même temps. De faire partie un peu de cette génération-là, c'est un truc qui me fait plaisir, quoi. Vraiment de me dire, OK, j'ai ma pierre à cet édifice-là, quoi.
Et tu sais qu'on le sent de l'extérieur.
Enfin, ah bon?
On le voit, j'ai l'impression que t'as une sorte de génération, de groupement de gens qui ont avancé un moment tous ensemble,
ouais.
Qui ont, je sais pas si c'est le bon mot, mais émergé ensemble grâce
oui.
à leur création.
Et du coup, ce qui, moi, me rend heureux, c'est que les succès des uns sont aussi nos succès, tu vois. C'est que le fait de voir Ludovic et Jérôme dans un film Netflix, on est fiers. On se dit, tiens, c'est cool. Ça veut dire que c'est possible pour beaucoup d'autres gens, tu vois. Il y a, pour l'instant, pas cet esprit de compétition et de comparaison. Voilà, exactement. Enfin, il peut exister en mode amical, en mode ah, j'ai envie de faire mieux que lui, mais pas pour le détruire, mais juste pour me challenger, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui me rend le plus heureux. Et c'est pour ça que j'aime bien quand les fans, entre guillemets, ne savent même plus d'où on vient. Ils disent ouais, t'es moustache ou bagel ou. Tu vois, ils confondent. Parce qu'on s'est tous mélangés au bout d'un moment, tu vois.
Ouais, juste avant en plus.
Bah ouais.
Ouais, c'est marrant.
Mais c'est, moi, ça me rend heureux que les gens ne savent pas exactement. Ils disent, ouais, je vois globalement qui tu es, mais je vois que tu fais partie d'une génération. Et moi, ça me fait plaisir, ça, tu vois, de faire partie de cette génération-là, etc. Et tout. Et je te dis, il y a des gens, je te dis, Cyprien, je le connais depuis des années, mais on a travaillé ensemble très tard, finalement, quoi. Mais voilà, quoi. On sait d'où on vient, on sait qu'on a eu plus ou moins les mêmes galères, même si on n'a pas fait forcément les mêmes parcours. Ça, c'est ma grande fierté. Et que dans tout ça, le Visiteur du Futur reste un truc unique. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de copier un tel ou un autre, et tout, etc. J'ai essayé de faire ce qui me semblait le plus logique pour moi, ce que j'avais le plus, qui me faisait le plus kiffer. Ça a eu son propre succès, et tout, etc. Ça me rend heureux. Mais on est dans une période là qui est charnière et où beaucoup de choses sont en jeu, quoi. C'est-à-dire que ce qui était une culture alternative parallèle pendant longtemps commence un peu à être, on va dire, pas récupéré, mais
un peu mainstream.
Déjà, c'est devenu de plus en plus mainstream, c'est sûr. C'est-à-dire que vraiment maintenant, il y a des jeunes qui disent j'ai grandi avec tes vidéos, qui est incroyable.
Mais ce qui est ouf, c'est que j'ai vu la stat il y a pas très longtemps, c'est qu'aux États-Unis, le métier numéro 1 que veulent faire les gamins, c'est
ouais.
YouTuber.
Bah ouais. C'est évident.
Devant tout le reste. C'est incroyable.
Et c'est un métier qui n'existait pas quand nous, on était jeunes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire j'étais youtubeur, ça n'existait pas. Du coup, c'est un métier qui a été inventé. Voilà. Mais donc, ça, c'est sûr que ça change complètement la donne. Ce qui fait que les nouveaux jeunes qui vont créer auront d'autres références. Tu vois, c'est que moi, mes références, c'était le cinéma et un peu la télé. Et c'était pas Internet. Quand j'ai grandi, j'avais pas de culture Internet. Donc, du coup, les nouveaux jeunes, ils vont vraiment avoir une culture Internet et cinéma et littéraire et tout ce que tu veux et jeux vidéo, mais une culture Internet en plus. Du coup, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir ce que ça va donner en termes de création. Voilà, ça va être hyper intéressant.
Ouais. Bah, y a juste une observation et après, on a deux questions pour finir pour toi. L'observation, c'est que quand je t'écoute parler, on sent que tu te connais très très bien.
Et je
tu te connais
ah,
quand
je...
même.
Malheureusement oui, bah, il faut
non mais enfin oui il faut mais c'est je trouve que c'est assez frappant. Tu te dis je sais que je suis comme ça, je sais que je préfère être dans ces situations là et c'est une grande force quand on veut créer, je pense. Et
ouais.
Je pense que ça vient aussi de de plein de petits moments de frustration que t'as eu où tu t'es dit putain merde ça marche pas et que t'as retenu des choses quoi.
Ouais, et puis surtout de se comparer un peu, c'est que justement de voir des gens faire des trucs que tu pourrais pas faire, genre voilà, il y a des gens, même mon propre frère, je me dis tiens il fait des trucs je pourrais pas le faire, de le savoir et de pas se dire c'est nul, de se dire putain c'est différent et donc moi je fais ça et tout. Et moi je trouve ça enrichissant de voir des talents chez les autres. Pour certains c'est l'inverse, pour certains c'est on va dire ils sont inhibés en voyant des gens talentueux, etc. Moi quand je vois des gens talentueux je suis pas inhibé, au contraire je trouve ça génial, je dis ah putain ce qu'il fait c'est vachement bien. Mais
je connais tes limites,
je connais surtout, je me dis ok, je me dis ok, enfin j'ai grandi dans une famille, au début je voulais dessiner, enfin au début quand j'avais 7 ans, et ma grande sœur est une génie du dessin. Du coup, j'ai fait, bon, ok, bah, c'est pas pour moi ça. Vraiment, je me suis dit, c'est pas pour moi, il faut que je trouve autre chose. Et même ma deuxième sœur a commencé à dessiner, et pareil, elle a vu le dessin de ma grande sœur, elle fait, ok, je vais faire de la photo. Tu vois. Et du coup, de trouver sa spécialité, c'est. Sans pour autant non plus. Le piège, c'est se dire, je sais faire que ça, je fais que ça, je prends plus de risques, j'ai un public que je dois nourrir. En fait, peut-être la différence, c'est que moi, mon public ne me nourrit pas, dans le sens technique, enfin financièrement. Alors que pour beaucoup de youtubeurs, ou peut-être pour des gens du théâtre, j'en sais rien, ils sont vraiment liés à l'argent que le public est prêt à mettre, ou au temps que le public est prêt à mettre, pour vivre. Moi, je n'ai jamais eu d'argent directement par rapport à un public. Du coup, j'ai jamais gagné d'argent directement par le public, même à l'époque du Visiteur Futur ou des vidéos sur Internet. C'était les boîtes de prod qui me payaient pour fournir des vidéos, etc., pour faire un travail. Du coup, je me suis jamais dit, tiens, si je fournis pas assez un truc pour eux, j'aurais mon loyer sera compromis, quoi. Ça n'a jamais été un problème dans ma tête, ça. Bien sûr, je veux que le plus de gens voient ce que je fais, etc., mais ça n'a pas été ça mon moteur, et c'est pas ça qui paye. Mais du coup, chaque fois que je vois des youtubeurs ou même des streamers, alors les streamers c'est pire parce que eux vraiment c'est au quotidien qu'ils doivent générer de l'engouement, générer des tips et tout, etc. Enfin c'est terrible. Du coup,
ça peut être assez malsain parfois. Je pense que tu peux en arriver parfois à faker certaines émotions pour engager les gens alors que finalement t'es pas dans l'humeur. Quoi.
Exactement. À te dire, je suis payé pour. Si je suis pas comme ça, ils vont me quitter, ils vont plus être là. Heureusement que je n'ai pas ça, quoi. Heureusement que je n'ai pas ce stress-là, je le vivrais très mal, quoi. Ouais.
Avec Valentin, c'est l'avant-dernière question qu'on avait envie de te poser. On est tous les deux sur le début du chemin de la création. Et on se demandait, est-ce qu'il y a un principe qui t'a peut-être forgé en tant que créateur, quelque chose que tu t'es dit, une sorte de règle de vie que tu t'es toujours forcé à appliquer. Ouais, je ne sais pas si c'est un mantra, mais un conseil que tu me donnerais, qu'il faut appliquer pour avancer sur ce chemin. C'est dur. Hein.
Non, j'ai pas de phrase magique. J'ai pas de phrase magique parce que c'est peut-être que, enfin, justement, en fait, je pense que les gens qui créent, ils ne créent pas parce qu'ils ont envie de créer. Ils créent parce qu'ils sont obligés. Tu peux pas convaincre quelqu'un de créer, tu vois. Tu peux pas lui dire mais si, t'as du talent, machin. Même si t'as pas de talent et que c'est en toi, tu pourras pas t'en empêcher, tu vois. Du coup, c'est horrible de dire ça, de dire que tu l'as ou tu l'as pas, mais c'est un peu ça, il y a des gens très talentueux qui vont pas créer parce que ils ont pas ça en eux, quoi. Il y a des gens qui, voilà. Et des gens moins talentueux qui vont créer parce que ils se sentent obligés. Moi, je pense que je fais partie de ces gens-là. Je sais pas à quel point je suis talentueux, je sais juste que je suis obligé de créer. Mon cerveau est fait comme ça. Mon cerveau, il voit quelque chose et il essaie de l'optimiser ou de l'améliorer ou de le... Tu vois, quand je parle de pulsion, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme manger, quoi. Et malheureusement, le plus dur, c'est de créer un cadre où ces pulsions-là deviennent... fournissent des projets, te mettent pas trop dans la merde, et etc. Comme je te dis, ils sont sains. C'est comme Dexter, tu vois. Dexter, il a une pulsion de serial killer, et son beau-père lui dit, tu vas tuer des gens pires que toi, comme ça, cette pulsion-là, elle est générée. Être auteur, c'est ça, quoi. C'est comment canaliser cette énergie-là, ce manque, cette envie de créer, pour que ce soit, ben, on va dire, pas un enfer, pas, et ça ne te rend pas malheureux, quoi. C'est ça le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas de créer ou pas de créer, le plus dur, c'est d'avoir ce cadre de vie, etc., qui va te permettre de comment dire, ouais, d'en être satisfait. Et comme on en a parlé, c'est sûr que ça se demande de passer par plein de questions, parce que, oui, de dire qu'est-ce qui est un succès, est-ce que c'est un succès, c'est ce qu'on pense vraiment, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, et t'auras jamais terminé de te poser ces questions-là, quoi.
Et peut-être, du coup, un conseil qu'on tire de ce que t'as dit, enfin, moi, ça me fait réagir sur un point.
Dis-moi.
C'est peut-être essayer de créer un environnement qui va alimenter tes pulsions, oui, pour que tu aies, oui, envie de créer et que ça devienne encore plus profond de toi.
Voilà, exactement, et que c'est ça. L'environnement, c'est ça. Alors, c'est pour ça que ce qui est difficile au début, c'est quand c'est pas ton... Quand... Je pense qu'il faut pas culpabiliser au début d'avoir un job. C'est que moi, c'est comme ça que je le voyais. D'avoir des jobs alimentaires, je me suis dit, bah, c'est ça qui me permet de payer un loyer, qui me permet d'avoir du temps et tout ça. Là où j'étais un peu malin, c'est que d'être gardien de nuit, je savais que ça me permettait de travailler que 3 fois par semaine. C'était 3 fois 12 heures. Du coup, c'était mes 36 heures, voilà. Et du coup, ça me permettait d'avoir du temps à côté. Bien sûr, si tu prends un job qui t'empêche d'avoir le moindre moment de cerveau disponible, ça va être compliqué après. Donc, il faut trouver les solutions malines pour te alterner job et etc. Et sachant que même quand ça va devenir ton métier, tu auras les mêmes problématiques. Mmh. Tu vas devoir faire des trucs un peu chiants, à la con, des rendez-vous que tu n'as pas envie de faire, etc. Et à côté, on va te dire, bah oui, mais il faut t'écrire, tu vois. Donc du coup, c'est important dès le départ de trouver son rythme, etc., sa rigueur. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. On n'a pas tous les mêmes chances. Et c'est ça un truc qu'il faut retenir, c'est que certains doivent plus bosser que d'autres. Certains s'y prennent à un moment de leur vie où c'est plus tard, donc ils ont d'autres contraintes familiales, tu vois, enfin voilà quoi. Donc du coup, c'est un peu, ce serait un peu présomptueux de ma part de dire d'appliquer ce que moi j'ai fait à tout le monde, parce qu'on n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas tous la même ville aussi. C'est-à-dire que c'est ce que John Rashid disait à un moment. John Rashid disait, putain, je me sentais exclu et tout, etc. Je pensais que c'était parce que j'étais rebeu, mais c'était parce qu'il vivait à Lyon. Et en fait, dès qu'il est venu à Paris, qu'il a commencé à croiser d'autres gens qui faisaient la même chose que lui, il s'est dit, mais en fait, oui, c'est là où il fallait que je sois. Mais en même temps, vivre à Paris, c'est un putain d'handicap, ouais, tu vois. Donc du coup, on n'a pas tous malheureusement, on démarre pas tous au même endroit, quoi. Maintenant, avec les technologies, l'avantage, c'est que on n'est pas forcément obligé d'être à Paris, voilà, quoi, pour créer. Y a des gens qui vivent dans tous les coins de la France et qui peuvent être un peu, voilà, quoi, qui débrouillent très bien. Donc, j'ai pas de conseils là-dedans. Moi, j'ai suivi un chemin parce que voilà, qui était circonstanciel. Et j'en ai tiré le maximum de choses. Ce qui est sûr, c'est que par contre, quand j'étais au BTS, j'étais hyper stimulé par les gens avec qui j'étais. Et c'est là où j'ai rencontré des gens avec qui je travaille toujours, à savoir Slim, Anaïs, entre autres, Jimmy, mon compositeur et tout, et d'autres gens.
Mélanie Laurent.
Alors Mélanie Laurent, non, t'as vu ça où ?
Dans une interview.
En fait, non, j'ai appris plus tard que j'étais au lycée avec elle, mais je savais pas.
Ouais.
Du coup, malheureusement, j'ai pas été stimulé par elle parce qu'on s'est jamais croisé vraiment.
Dommage.
Mais on était dans la même classe cinéma, mais on se croisait pas et on se connaissait pas. Et je l'ai appris plus tard, quoi.
Je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur t'entourer de gens,
oui,
qui te stimulent et t'aident,
oui,
à avancer aussi,
complètement,
et sur qui tu peux t'appuyer.
Complètement. Et alors, ce qui est compliqué, c'est de trouver les bonnes personnes, parce que des fois, il y a des gens qui veulent t'aider, mais qui finalement sont des boulets.
Ouais.
Et ça, c'est compliqué
Tu
le sais, c'est trop tard. et du coup, ça, c'est compliqué. Et aussi, trouver un. Et après, donc, quand j'ai fait mon BTS, après, j'ai fait un peu de fac. Mais quand je dis un peu, c'est un mois. Parce que là, pour le coup, là, c'est mon expérience, et je dis pas que la fac, c'est nul. Mais là où d'enchaîner BTS audiovisuel, où toutes les semaines on tournait des trucs, on créait, on avait du matos dans les mains, et d'être dans des salles de fac où on regardait des documentaires que je pouvais voir sur Arte, et de voir des gens qui étaient éteints à l'intérieur, je me suis dit, je vais mourir si je reste là.
C'est motivant, Nico aussi. C'est motivant aussi parce que tu te dis,
t'as envie d'y aller jamais.
C'est surtout la meilleure chose que j'ai faite, c'est de quitter cet endroit.
Bien sûr.
C'est que je me rappelle le moment où j'ai quitté la fac et j'ai dû dire à mes parents, bon, j'arrête la fac, mais j'ai un plan. J'avais pas vraiment de plan, mais je voulais les rassurer. Et je leur ai dit, je vais faire des fausses pubs et après je vais t'engager en tant que créateur de pubs. ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais l'important, c'était que je me force à faire des trucs et de quitter la fac. Et vraiment, c'était une des meilleures choses que j'ai faites. De quitter un environnement stérile et démotivant, c'était hyper important. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Et certains, malheureusement, sont dans des zones, que ce soit scolaire, familial, professionnel, où ils n'ont pas ça. Et je ne peux pas leur dire, bah, allez les gars, le matin, on se lève un petit peu et on écrit. Et... Non, malheureusement, c'est, la triste réalité, c'est que pour certains, c'est plus dur que d'autres de trouver un cadre stimulant. Quoi.
Finissons par la dernière question. On a un cadeau pour toi.
Oh,
est-ce que tu nous invites
plutôt BD ou livre?
Moi?
Ouais.
Je suis plutôt livre.
Mais en ce moment, je suis plutôt BD.
Non, c'est juste que j'ai pas une grande culture BD comme ben, Davy, par exemple, qui lui ouais. lit tout, etc. Après, je suis pas non plus un. Enfin, je lis très peu de romans, à mon grand regret. Je lis beaucoup trop de livres de cinéma, des techniques, etc. Et je me dis, putain, il faudrait vraiment que je me remette.
Est-ce que tu en recommandes un d'ailleurs, de technique de
cinéma? Bien sûr. Un seul. Peut-être le. Un des meilleurs, dans le sens qu'il est un peu celui qui synthétise le plus, c'est Into the Woods de John York. Parce qu'il fait référence à d'autres livres. Mais malheureusement, lire les autres, c'est important aussi. Okay. En fait, ce qui est chiant dans les livres de scénario, c'est que soit il faut en lire aucun, soit il faut tous les lire. L'erreur, c'est d'en lire qu'un et de dire c'est ma Bible et que je vais devoir appliquer cette. Enfin, une méthode, c'est censé t'aider, pas censé te donner des contraintes. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant de lire plein de méthodes et de prendre un peu le meilleur de chaque livre plutôt que de t'en suivre un et de me dire c'est comme ça et c'est une routine et tout. Voilà, quoi. Donc, Into the Woods, je trouve ça assez fort parce que je trouve qu'il arrive à mettre le doigt sur des trucs très simples et en résumant un peu toutes les autres méthodes. Quoi.
Ok, bah écoute.
On t'offre les deux.
On t'offre les deux.
Oh, bah trop mal. Ouf. Tant pis, j'ai pas à choisir.
Tu vas faire un unboxing à la.
Ah oui, un unboxing en ASMR. En ASMR. Attention, je vais des.
Attends, je mets la lumière.
Vas-y, vas-y. Je vais enlever le papier.
Ça, c'est. Ça, c'est la BD du coup.
Alors, la BD, c'est.
Qui est très petite.
Francis et Papa, d'accord. Déjà, le titre, j'aime beaucoup.
Tu connais Francis ou pas?
Alors, attends. Ah oui, bah, bien sûr, oui, bien sûr, bien, je vois, oui, c'est les. Oui, oui.
Bah, en fait, c'est une BD qui. C'est des petites pages.
Ouais.
Qui commencent toujours par les deux mêmes cases. Ouais. Qui sont, tu peux les lire sur chaque page.
Donc,
ça commence toujours comme ça. Ouais. Francis se promène dans la campagne. Soudain. Il se passe quelque chose. Et là, après, voilà, chaque année, une petite aventure.
Bah en fait, j'avais vu passer ça sur Internet, quoi, mais j'avais jamais eu la BD dans les mains. Putain, super.
Et bah, tu m'en diras des nouvelles.
Ok. Vous avez pensé à moi parce que il s'appelle Francis ou rien à voir?
Non, rien à voir.
D'accord, ok.
En fait, à chaque fois, je choisis une BD qui me semble être, pour moi en tout cas, la bonne à offrir à l'invité. De penser un peu, mais j'essaye de trouver un style qui, je me dis, va plaire à cette personne.
Oui, et surtout d'aller au-delà de ce qu'il connaît déjà, quoi. Ouais. Donc ça, c'est
tout ce qui n'est pas forcément simple, mais.
Ouais.
On ne te connaît pas personnellement, mais on s'est dit. Enfin, là, je me suis dit, voilà.
Bah, non, je trouve ça super. Ça, super. J'ai hâte
de. Pour l'instant, on a toujours.
On est assez contents.
Personne vous a dit, mais non, mais regardez, c'est cette merde. Voilà. Alors le deuxième.
Alors si tu lis pas de roman, ça va peut-être te faire peur au début.
Non mais j'en lis pas assez.
Par le volume, mais tu vas le vendre. Enfin.
J'en lis pas assez. Ah, le Comte de Monte Cristo. Ah putain, oui, alors le pavé. En plus c'est quoi?
C'est le 1,
donc il y a plusieurs tomes.
Tu l'as lu ou pas?
Bah non, alors j'ai dû voir des films, plusieurs trucs, mais...
Peut-être un film dessus, je sais pas.
Il y a une époque, il y a eu un film avec Guillaume Depardieu et Gérard Depardieu.
Oui,
Guillaume Depardieu faisait la version jeune du Comte de Monte-Cristo, et après c'était Gérard Depardieu.
C'est ça. Mais en tout cas, excellent bouquin. On a justement reçu Alexis Michalik plusieurs la semaine. Et
ah bah lui, il est très inspiré par Dumas.
Par Dumas, il adore. Et moi, je suis allé voir sa pièce, donc Le Porteur d'Histoire.
Bien sûr.
En ayant lu Monte-Cristo, et il y a eu plein de parallèles. Et l'histoire est assez dingue, et je trouve que pour un scénariste et un mec qui a écrit, c'est... C'est absolument fou l'histoire et
surtout que tu vas adorer. Oui, ça, mais c'est les premiers feuilletons, quoi. C'est ça qui est génial. Bah écoute.
Et là, pour le coup, tu disais, c'est le soap. C'est un bouquin de 700 pages. Ouais, mais à chaque page, je te dis, putain, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi.
Mais non, mais voilà. Mais complètement, mais c'est ça. En Angleterre, c'était Dickens qui faisait ça, quoi.
Complètement.
Qui faisait ça sur. Donc, complètement. Mais écoute, merci. Vraiment, super.
C'était un grand plaisir. Merci d'être venu.
Franchement, c'était une super conversation.
Je sais pas, en fait, je sais que c'est frustrant parce que j'ai jamais une ligne directrice très précise. Et c'est pour ça que j'ai toujours encore. Pour l'instant, j'ai un peu refusé de faire des TED Talks, etc. Ouais. Parce que j'aime bien discuter Je préfère discuter plutôt que d'avoir donné un cours, quoi.
Mais c'est ça le pouvoir du podcast, je trouve.
Ouais.
C'est que là, on a une discussion, pour moi, qui était vachement sympa. Et je sais pas si ça se ressentira derrière le micro.
Ouais.
Mais je trouve que plus ça avançait,
ouais,
plus on... Déjà, on a l'impression de te connaître un peu,
ouais,
plus. Et plus c'était détendu et on abordait des sujets vachement intéressants. Et merci pour ça.
Bah, j'espère, moi, que... Je trouve que t'as illustré un point dont je me suis rendu compte et on se rend compte quand on avance. C'est,
ouais,
quand t'es petit et que tu regardes les adultes,
ouais,
tu te dis, ils ont un modèle, c'est simple pour eux, ils filent,
ouais,
droit,
ouais,
ils savent,
ouais,
où ils vont et la vie est réglée. Et plus tu avances, et plus tu te rends compte que personne,
non,
ne sait ce qu'il,
non,
fait, et que tu avances un peu à tâtons, et que tu découvres un peu en faisant, et que quand tu te regardes en arrière, tu fais une post-rationalité et t'expliques les choses.
Et alors, par rapport à ça, ce que tu dis, je ne sais pas si c'est, on a encore le temps,
non,
ça,
bien, va, sûr, bien sûr.
Vas-y. Ce qui est terrible par rapport aux nouvelles générations, c'est que, ça c'est un truc qui m'obsède, c'est que avant, quand je dis avant, c'est vraiment aux temps anciens, les anciens instruisaient les plus jeunes d'un savoir qui était important, à savoir, je sais pas, comment survivre, comment les métiers, tout ça, c'était assez figé. Maintenant, on vit une époque où les anciens ne possèdent pas un savoir technique qui va permettre aux plus jeunes de s'intégrer dans la société, puisque tout change trop vite. Du coup, c'est les plus jeunes qui sont plus au courant des nouveaux métiers, des nouveaux usages. C'est eux qui les créent. Et du coup, pour les plus jeunes, ce qui est plus dur, c'est qu'ils ont une absence de modèle. Ou alors, c'est des modèles de leur âge. C'est pour ça qu'ils veulent tous être youtubeurs. Et voilà. Et du coup, ça crée un fossé de génération où... d'où vient la transmission, qu'est-ce qu'on peut transmettre vraiment. Alors bien sûr, il y a des trucs qu'on peut pas ne pas transmettre, il y a des, voilà, au niveau de la morale, tout ça, mais en termes d'inspiration, c'est plus dur, je pense, pour les jeunes de maintenant, parce que
t'as plus de chemin préconçu, je pense,
voilà, et que ce qui était un modèle il y a quelques années n'est plus maintenant, quoi. Donc
tu disais, tu rentres dans une boîte, tu fais 5 ans à ce poste, tu montes et tu fais. Et dans 20 ans, t'es le boss,
oui,
de ton boss, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, ça fait. Enfin, ça n'existe plus. Ça existe, mais ça fait
de plus
rêver. Ça fait plus rêver les plus jeunes, quoi. Et en plus, même le métier de YouTuber est un métier tellement instable et précaire et où toutes les règles changent. Même si un jeune se dit, je veux être YouTuber maintenant, dans 5 ans, peut-être il se dira, mais ça n'existe même plus,
ouais,
YouTuber, tu vois. Donc du coup.
YouTube aura disparu.
Voilà, ce sera
ce qui est possible.
Ce qui est très possible. Du coup, c'est beaucoup plus dur maintenant pour les jeunes, pour voilà, et ils peuvent pas savoir qu'est-ce qui va être le truc qu'ils vont avoir envie, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est de plus en plus dur, je pense, pour les plus jeunes. Malheureusement.
Alors on finit sur une note négative, mais
non, pas négative.
Un peu
c'est dans le sens
moi je vois ça de manière très positive.
Mais, je suis d'accord.
Tout est possible.
Exactement.
C'est à toi d'aller
chercher. Exactement. C'est pas une façon de dire, ah bah vous pourrez pas faire comme vos parents. Bah tant mieux.
Tant mieux. Ouais.
Voilà. Voilà. C'est, donc du coup,
maman,
le but c'est de créer ses propres modèles. Le but c'est d'être malin, de sentir les choses du moment, de dire en ce moment ce truc c'est bien, il y a du potentiel, je vais miser là-dessus, plutôt que de se dire je vais faire ce qui a déjà été fait alors que ça n'existe plus.
Mmh.
Tu vois. Moi justement, je me rappelle, je voulais que être réalisateur. Mon seul plan B que j'avais, quand j'étais jeune, c'était d'être vendeur dans un magasin de vidéoclub. Et je me suis dit, ça, c'est un métier que je pourrais faire. Il n'existe plus, ce métier. Oui, voilà. Et je me suis dit, parce que pareil, à l'époque, je voyais Tarantino, je voyais des gens, Kevin Smith faire ça. Je me suis dit, ben, ça, je peux le faire. Ce métier n'existe plus, il n'y a plus de vidéoclub. Donc, je n'ai même plus de plan B. Voilà, donc du coup, il faut à chaque fois, voilà,
être en recherche.
Entre recherche et être à l'affût, vraiment. Ouais. Et donc, oui, donc c'est pour ça que c'est pas tant négatif pour moi.
C'est un mouvement pour trouver ta voix.
Exactement, quoi. Voilà.
Super. Merci beaucoup.
Bah non, merci à vous.
François, merci. C'était un vrai plaisir de t'avoir.
Bah non, mais c'était un vrai plaisir aussi.
Ciao. À bientôt.
Merci.
Ciao.
Déjà 4 épisodes. C'était une super rencontre avec François Descrêpes pour nous. On espère que ça vous a plu énormément. Et surtout, le meilleur reste à venir. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous aider de plusieurs manières.
Comme d'habitude, vous pouvez partager le podcast à vos amis, nous laisser un avis sur iTunes, donner une chance à mon livre, et le dernier, j'ai oublié, Kylian, tu vas peut-être m'aider.
S'inscrire à la newsletter. Car nous partageons toutes les semaines de très beaux conseils.
Exactement. On vous dit à lundi prochain pour l'épisode numéro 5, et on vous dit de rester connectés. Non, on vous dit quand.
Rendez-vous lundi prochain.
Rendez-vous lundi
prochain. Bonne semaine.
Salut.